Gameblogueuses et gameblogueurs, salut.
Bonjour
à toutes et à tous.
Hello, hello.
Salut.
Bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, c'est Julo.
Salut, ça va ?
Qui ne prend même plus la peine d'attendre qu'on l'ait présenté pour dire bonjour.
Voilà.
Oh, là là,
vulgaire,
ça commence
pardon,
direct
excuse-moi.
Avec Julo.
Je suis vulgaire, après je m'excuse.
Évidemment, il y a aussi des gens qui sont bien éduqués hein, dans ce podcast. Il y a Thomas qui est avec nous.
Bien le bonjour, mon cher Jenny, comment vas-tu ?
Eh bien, ça va super. Et Camille.
Hello.
Et tous ensemble, nous allons parler eh bien, de rien. Finalement de rien, on se dit qu'on allait
Merci.
Se réunir comme
et
ça.
Mais souvent les meilleures conversations partent de rien.
C'est
ça.
Vrai.
Ouais.
Ah, mais il est un peu tôt pour avoir une profonde conversation philosophique sur le sens des choses et l'avenir de l'homme.
On va plutôt avoir une conversation sur les jeux.
Ça sera plus
sur
les
de cette semaine, les jeux que nous avons pu essayer, que nous avons pu voir, que nous avons pu tester. Trois thèmes cette semaine, évidemment. Il y aura Battlefront 2 que vous avez pu essayer en bêta multijoueur sur à peu près toutes les plateformes durant le week-end dernier. Camille avait eu l'occasion déjà d'y jouer auparavant. Et il nous dira si vraiment c'est beaucoup mieux que le premier, qui était un peu décevant quand il était sorti à l'époque. Deuxième thème, c'est Assassin's Creed Origins, qui arrive le 27 octobre, le même jour que Mario, le même jour que Wolfenstein, le même jour que plein de trucs.
Stranger Things.
Que Stranger Things. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura la saison 2 de Stranger Things. Oh bordel.
Oh bordel, qu'est-ce qu'on va faire le 27
et le nouveau
Yama Mario aussi. Hein, va falloir se répartir les tâches, je crois.
Un peu plus discret, celui-là, d'ailleurs.
Et donc
c'est
Thomas,
c'est tout le problème.
Thomas qui a eu l'occasion d'aller y jouer va aussi nous en parler. Nous finirons avec les tests de cette semaine. Et il y en a encore une pelletée. At In Time, Golf Story, L'Aventure Letton, Forza 7, Picross. Bon, il y en a plein, on vous en parle évidemment tout à l'heure. Mais comme chaque semaine, avant de débuter
Shadow of War
et Shadow of War, absolument. Ne t'inquiète pas, on en parle tout à l'heure. On va commencer évidemment avec le win et le fail de la semaine. Et le win, mon cher Thomas, est assez particulier cette semaine.
Et oui, le win est très prometteur.
Et oui,
c'est
le win.
La vidéo qui est sortie la semaine dernière du nouveau projet de House House, le studio en fait qui était derrière Push Me, Pull You, cette espèce de jeu bizarroïde où on avait des verges à deux têtes et où on faisait des bruits de prout pour essayer de capturer des ballons sur une aire de jeu. Voilà.
Ça, c'est un pitch.
Et voilà, exactement. Et
bah, vous avez bien tout noté.
Le pitch
donc,
de leur
des
nouveau
verges
jeu.
À double tête.
Oui, mais c'est ça.
Vas-y.
Qui font des bruits de prout et où tu dois capturer des ballons sur un espèce de terrain de basket, voilà. Je crois.
Il fallait s'attendre à un truc de fou pour leur deuxième jeu.
Voilà, et effectivement, c'est le cas. La première vidéo est sortie cette semaine et vous pouvez la découvrir si vous êtes premium. C'est Untitled Goose Game.
Ouais, absolument.
Bah, tout est dans le titre. C'est un jeu où on incarne une oie, mais un genre une oie.
Titre,
super
donc.
Relou en fait, puisque vous voyez
comme
sur ces images,
oies.
Voilà, c'est une oie en fait qui va foutre un peu le bordel, quoi. Elle est pas jupitérienne, mais on va la voir perturber un petit peu la journée d'un jardinier en fait.
La
voit piquer un bon vieil autoradio qui va lui permettre de rentrer dans le jardin. Elle va piquer des carottes, l'obliger à changer de chapeau. Enfin voilà, il y a toute une liste d'objectifs en fait qu'on va devoir mener à bien, tout en étant
l'animation
une oie,
voilà. De l'oie est absolument extraordinaire.
Ah, c'est fabuleux. On peut se planquer en fait, voilà, dans les fourrés.
Metal Gear Solid, là, voilà.
Ça a l'air tellement relou.
Dans cette petite vidéo, on voit un truc, c'est que l'oie pourrit la vie de ce pauvre jardinier. Elle lui pique absolument tout. Ça a juste l'air vraiment génial, en fait. On retrouve exactement l'esthétique qu'il y avait dans leur premier jeu. Le visage, au niveau des couleurs, etc. C'est vraiment ce qu'on avait dans Push Me, Pull You. Et bah, moi, ça m'a fait éclater de rire quand j'ai découvert cette vidéo. Et du coup, c'est déjà un jeu que j'attends avec impatience, parce que des jeux qui nous font rire aux éclats comme ça, il y en a pas non plus tous les jours.
Et réaliste, extrêmement réaliste,
oui.
Parce que
bah,
les oies,
par rapport à leur premier jeu, c'est on se trouve dans un monde inspiré de la réalité, quoi.
Bah non, mais les oies,
je crois que les verges à double tête, ça n'existe pas.
Moi, je
de
pas
la
merde, croisé,
les oies, c'est tellement relou comme animal. C'est exactement ça hein, dans la vraie vie.
Mais c'est bien choisi du coup.
Ah ouais,
c'est l'oie qui les brise.
Bon,
quoi.
Après, faudra voir évidemment sur la longueur, mais c'est en tout cas l'idée. Le concept est assez génial.
À saluer.
Absolument.
Et c'est très bien présenté. Je veux dire, le premier trailer quand même donne clairement envie.
Ouais. Absolument.
Donc on a hâte de voir ce que ça va donner.
Et puis,
dans
y a les objectifs et tout.
Oui, c'est ça. T'as toute une
ça
liste d'objectifs.
C'est trop bien. Bah merci pour ce win Thomas qui a conquis toute la rédaction
qui
et qui montre qu'on
semaine,
peut être encore inventif dans le monde du jeu vidéo.
Le oui.
Fail.
Oui.
Fais gaffe toi. Hein. T'es de mauvaise humeur aujourd'hui, mais je vais te faire redescendre vite.
Je suis
de
bonne humeur.
Non. Bon alors. Le fail de la semaine, bah c'est pour ma gueule aujourd'hui. Parce que.
Ça te va bien.
C'est toi le fail de la semaine.
Absolument. Batman The Enemy Within, qui est paru la semaine dernière sur à peu près toutes les plateformes et dont vous pouvez lire le test de Romain, et ben il y a un petit souci à l'intérieur, voire un gros souci, enfin il y avait, à savoir que à un moment du jeu vous retrouvez à analyser une scène de crime, un crime perpétré par Harley Quinn, et que vous voyez devant un coffre-fort de la banque de Gotham un cadavre. Et le cadavre en question, vous pouvez le voir si vous êtes premium, bah, il fait très réaliste, et il fait tellement réaliste qu'en fait que quelqu'un sur internet a réussi à retrouver l'origine, et il se trouve en fait que c'est la photo de Andrei Karlov, l'ambassadeur russe qui avait été assassiné à Ankara l'année dernière Turquie, et que bah, ça s'est vu, et que du coup Telltale a été obligé de réagir assez vite, malheureusement pas suffisamment vite pour que internet ne le remarque pas, et bon bah voilà, ils sont censés avoir patcher la chose pour retirer ce qui est quand même la photo d'un homme vraiment mort dans des conditions qui plus est tragiques, et bon bah voilà, c'est pas la première fois qu'on a des
c'est
cas
hallucinant de... qu'ils puissent avoir l'idée à la base de faire ça quoi.
Bah tu sais,
même si c'est une blague, elle est de mauvais goût, et
non c'est
si
pas une blague, c'est juste mon avis, une recherche d'image sur Google, tu cherches un cadavre, tu dis après je vais le passer sous
putain,
Photoshop pour qu'il ait l'air,
les développeurs de jeux ils peuvent photographier un mec en costard,
Faut croire que quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Hein. Rappelez-vous avec Uncharted 4, l'artwork d'Assassin's Creed qui s'était retrouvé à l'intérieur d'un trailer et qui avait été retiré aussi dans la foulée. Voilà, c'est comme dans tous les milieux, mon cher Julo. Des fois, quand t'as pas le temps, tu vas au plus pressé et tu te poses pas de questions. C'est tout. Mais ils l'ont retiré depuis et ça a créé quand même
c'est pas du joli joli.
Ah ouais, c'est pas joli joli. Ça a créé une petite polémique quand même. Mais heureusement, ça a été retiré. Et j'imagine que le pauvre graphiste qui est à l'origine de ça, bah aujourd'hui, il n'y est plus.
Voilà. Il n'est plus quoi ?
Il n'est plus chez Telltale.
Ah bon ?
Ouais, j'imagine, en tout cas.
Par contre, l'ambassadeur, lui, est toujours mort.
Oh, absolument, ouais.
Du coup.
Et concernant cet épisode 2, on en parlera à la fin du podcast.
Et toi, tu t'es dit que c'était le meilleur moment de faire une vanne, là.
Ouais.
On est là en train d'être désolé de cette erreur incroyable.
J'ai un cadavre devant les yeux depuis 5 minutes, là, donc...
Allez, il est temps de passer à autre chose.
Exactement, mon cher Gélo, on va passer au premier thème de la semaine qui concerne...
D'accord.
Star Wars.
Ah,
ouais.
Dans une galaxie lointaine, très lointaine.
Absolument. Eh bien, exactement. Camille est allé dans une galaxie lointaine, très lointaine, et il va nous en parler de Star Wars Battlefront 2, le jeu de DICE qui sort au mois de novembre, le 17 novembre prochain, sur PS4, Xbox One et PC. Camille, t'as eu l'occasion d'y jouer beaucoup. Bon, t'es un gros fan de Star Wars, ouais. Ça c'est pas nouveau.
Star Wars, c'est mon péché mignon de base, donc j'ai pas été conquis d'origine, puisque bah, comme vous l'avez pu le voir vous-même, quand Star Wars Battlefront premier du nom est sorti, alors c'était un peu le jeu de paraître, c'est-à-dire que le jeu était s'adressé aux fans, il était parfait en ce sens, il était magnifique, il flattait en fait l'ego du fan en faisant pleuvoir tout un tas de connaissances, des planètes, des blasters, etc. Mmh. Mais la mécanique de jeu ne suivait pas, c'est-à-dire que
un peu trop simpliste.
C'était un peu trop simpliste, et puis il n'y avait pas beaucoup de sensations, c'était en fait vraiment que du paraître. C'était magnifique, mais ça s'arrêtait là.
Puis ça se cantonnait quand même beaucoup aux attaques au sol, quoi.
La principale problématique, et celle qui a été tout de suite repérée, c'est qu'en fait c'est un jeu Star Wars, mais sans les étoiles, en fait.
Bah, exactement.
C'est la guerre des étoiles sans les étoiles, c'était un peu problématique. Et en fait, pour attendre d'avoir les premières battles spatiales, il fallait attendre le troisième DLC, deuxième DLC il me semble, et c'était c'était déjà de base assez problématique. Et là cet élément là a été particulièrement travaillé, c'est à dire que dans Star Wars Battlefront 2 on retrouvera directement dans le jeu de base un mode à part entière, donc Starfighter Assault, que vous avez déjà pu découvrir
j'ai pu essayer à la Gamescom d'ailleurs,
voilà, de la Gamescom. D'ailleurs il y a eu une présentation assez longue lors de la conférence hier. Et donc ce mode Starfighter, il est assez intéressant et il permet vraiment de se rendre compte qu'on est dans Star Wars et qu'on a besoin de vaisseaux. Voilà,
ouais,
on a
d'ailleurs, qu'ils sont beaucoup plus agréables à piloter que dans le premier. Beaucoup moins simple aussi.
Exact.
Le développement de cette partie a été externalisé, n'est-ce pas ?
Ouais, et en plus de ça.
C'est Motive, je crois, qui s'en occupe. Non, c'est Motive ?
Alors, c'est le studio de Burnout.
Non, je crois que c'est Motive. Hein.
C'est Motive, ouais.
Ah, c'est Motive. Ouais. Ah, c'est Motive.
Motive
et Criterion, voilà.
Merci
Criterion, merci.
Que vous n'entendez pas, mais qui est là.
Oui, c'est Motive et Criterion. Hein. Voilà.
Absolument.
Bah là, on se rend bien, pour ceux qui sont premium, on se rend bien compte sur les images. Hein, c'est le trailer de Battlefront 2. On se rend vraiment compte le travail qui a été réalisé sur les batailles spatiales. Mais ça ne veut pas dire que les batailles terrestres ont été laissées de côté. Bien au contraire, puisqu'en fait, ce Battlefront 2, il corrige vraiment les erreurs, dans le sens où, dans le premier aussi, une erreur qui était récurrente, c'était qu'il n'y avait pas assez de contenu quand le jeu est sorti.
Mm-hmm.
Pas assez de maps, pas assez de modes de jeu, enfin c'était pas assez de héros non plus. Là, la problématique a totalement changé, puisque de toute façon, il y a, il me semble...
Le triple du contenu.
Le triple.
En termes de maps, de perso.
En termes de maps, c'est assez extraordinaire. En plus de ça... dans la première, dans le premier jeu, on se cantonnait à la première trilogie, là, on a la guerre civile galactique, et là on a le droit aux trois films, donc on va pouvoir faire des batailles des trois films, même celle du huitième épisode qu'on n'a pas encore l'occasion de voir.
Ce dont tu nous parles là, c'est présent dans le jeu de base, du coup ils ont déjà annoncé, ce ne sera pas des DLC ou un season pass.
Parce qu'il n'y a pas de season pass. J'ai eu l'occasion de discuter, donc faire une interview du producteur du jeu. Lui, sa priorité, c'était justement de ne pas. Alors maintenant, c'est EA et l'habitude de ça.
C'est généralisé chez Electronic Arts maintenant. Et c'est intelligent.
C'est Titanfall qui a lancé ça en premier.
Exactement.
Et donc, le but, c'est de ne pas séparer la communauté. Parce que dans le premier, c'était aussi une erreur récurrente. C'était qu'en fait, dès qu'un DLC sortait, la communauté était scindée. Du coup, les maps du DLC précédent ou même du jeu de base n'étaient totalement désertiques. Il n'y avait plus aucun joueur. Et pour un jeu à majorité multijoueur, qui était d'ailleurs que multijoueur.
Et surtout, les gens qui n'avaient pas acheté le DLC, eux, ne pouvaient pas jouer
jouer
avec.
Donc, c'était le boxon.
Du coup, il y avait moins de monde.
Il y avait moins de monde. Mais c'était même pas il y avait moins de monde. C'était que les serveurs étaient totalement vides quand un DLC sortait, donc c'était vraiment vraiment catastrophique pour un jeu multijoueur. Le gros changement, c'est aussi évidemment que j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer, mais donc petit teasing pour ce podcast, je vais avoir l'occasion de voir la campagne solo, donc le 12 octobre prochain, puisque là pour l'instant je n'ai pas l'occasion d'y jouer, donc là
parce que c'est l'autre gros défaut du premier jeu qu'ils ont corrigé, c'est ils ont mis une campagne solo.
Exactement, il n'y avait pas de campagne solo, donc c'était vraiment ça a été beaucoup critiqué, et là ce sera pas justement une campagne solo qui va être vraiment comme dans certains jeux, pour citer Battlefield, où c'est vraiment pour faire le décor. On met une campagne solo, mais c'est le faire valoir. Alors que là, non, ça serait une campagne solo qui aura un véritable intérêt. Ça se rapprochera plus en cela d'un Call of Duty, c'est-à-dire une campagne solo qui aura, sans être centrale dans le gameplay, ça sera vraiment quelque chose d'à part, quelque chose qui aura vraiment une grosse importance.
Et surtout quelque chose de canon, parce que c'est une histoire
Exactement.
Qui se passe entre le retour du Jedi et l'épisode 7.
Ça se passe en fait juste à la chute, à la destruction de la seconde étoile de la mort. Donc contre l'empereur est mort, tout simplement, quand Vador est mort. Et évidemment, dans le retour du Jedi, on se contente des films, on se rend compte, on pourrait penser oui, mais du coup l'Empire c'est fini, qu'est-ce qui se passe après, quoi. Alors qu'en fait pas du tout, parce que l'Empire c'est gigantesque, ils ont des milliers de planètes sous leur coupe, et donc du coup c'est un peu ça qu'on va suivre, c'est les troupes d'assaut qui étaient aussi sur Endor qui vont se rendre compte de la destruction de l'étoile de la mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on va faire, on va venger l'Empereur, puisque fanatique jusqu'au bout, le but est justement de venger l'Empereur et de redorer le blason de l'Empire et de redonner sa grandeur. Et donc à cela, on a pu voir dans certains trailers que l'empereur Palpatine n'était pas si mort que ça finalement, puisqu'on a vu son visage.
C'était un peu mort seulement.
Voilà, c'était à demi mort, on va dire, puisqu'on a pu voir son visage à l'intérieur d'une sorte de robot, d'androïde. Et donc voilà, ça va être une des grosses surprises de la campagne solo. Mais sinon, pour revenir vraiment au multijoueur,
je peux me permettre un petit mot sur le solo, entre parenthèses, moi j'y ai joué à l'E3 en fait, au solo. Et c'était pas terrible. Enfin, c'était assez décevant, parce que on tombait dans le piège dans lequel on.
Tu veux
pas
dire
tomber.
Qu'il mérite un bonnet d'âne solo?
Putain.
Ouais, je suis désolé. Il fallait.
Non, elle est bien.
Ouais, ouais.
Non, le souci c'est que ça donne l'impression de jouer au multijoueur tout seul. Mais quelque part, on n'a pas envie de tomber dans ce piège-là.
T'as vraiment testé le solo?
Oui.
Ou c'était,
non, je l'ai vraiment testé pour de vrai. Je suis pas en train de pipoter.
C'était la campagne solo.
C'est la vérité vraie. Ouais. Et c'était une version très finale, quoi. Mais malgré tout, on pouvait voir que faut pas s'attendre à une espèce de jeu différent dans le jeu. C'est quand même un jeu qui reprend vraiment le moteur, le machin, etc. Et les objectifs un peu pas terribles qu'on peut trouver dans le
jeu. Ouais, t'as pas senti
multijoueur.
Un travail particulier
j'ai
pour
pas
creuser
senti,
un petit peu le gameplay sur d'autres phases
j'ai
de
pas
jeu.
Senti, tu sais, genre, notre équipe qui est à côté fait un jeu et qui va être rajouté dedans. J'ai senti vraiment une espèce d'émission.
En tout cas, ce qu'on m'a dit, c'était justement d'échapper à ça. Alors, c'est assez problématique.
Je trouve pas qu'ils y échappent dans ce que moi j'ai vu. En revanche, après, il y aura une histoire intéressante probablement, etc. Et puis ça va alterner les phases en vaisseau.
Clair qu'encore une fois, Battlefront, ça s'adresse donc aux néophytes de la saga Star Wars, mais bien évidemment aussi aux fans de Star Wars. Tout est fait pour vous mettre dans l'ambiance. D'ailleurs, le multijoueur réussit ça très bien, puisque dès les premières minutes, dès les premières secondes dans le menu principal, on est vraiment immergé.
J'ai
dans
vu
Star
cette
Wars.
Scène d'ailleurs, ce qu'il y avait juste après cette scène là, au moment où elle parle.
Où justement l'empereur apparaît.
Voilà cette scène là, et on voit dans le casque le visage de l'empereur.
Et bah, en tout cas, bah, j'espère que ça sera une mauvaise partie du solo que t'as vu et que le
reste, voilà, et que ça a été bien travaillé depuis, etc. Et qu'en fait, ça va être génial.
Bah, je vous dirai mais ça en tout cas à partir du 12 octobre, enfin un peu après le 12 octobre, puisque c'est vraiment là où j'aurai l'occasion d'y jouer vraiment de longues heures. On verra ça de plus près, mais en tout cas pour le multijoueur, il n'y a vraiment pas de souci à se poser puisque les principaux défauts du premier épisode sont supprimés. On retrouve plus de héros, donc ça c'est quand même pas mal. Et comme m'avait confié donc le producteur, alors moi c'est quelque chose qui m'avait un peu choqué en tant que fan de Star Wars, c'était d'avoir fait un mélange de trilogie dans les héros. C'est-à-dire que quand on joue par exemple la bataille de Naboo qui est censée se passer lors de l'épisode 1, on pouvait jouer Han Solo et on pouvait jouer Boba Fett. Mm-hmm. Ce qui est assez contradictoire, et puis finalement en fait c'était vraiment c'est pas un souci de cohérence, c'était vraiment pour le coup un souci de fun, alors qu'il voulait vraiment mélanger les héros des différentes époques pour que voilà l'impression de diversité soit bien présente. Mais malgré tout je trouve ça assez étrange, puisque quand même sur Naboo on aurait pu avoir des grands personnages de la première trilogie, enfin de la seconde trilogie. On aurait pu voir Qui-Gon Jinn,
évidemment.
Non mais on aurait pu voir Qui-Gon Jinn,
tout le monde veut Jar Jar
Binks, Obi-Wan jeune, on aurait pu voir même Mace Windu. Enfin, il y a une quantité phénoménale de héros, de Jedi jouables. On se demande pourquoi ils ont fait ce choix. Donc ça, en tant que fan de Star Wars, ça peut choquer, mais après une fois en jeu, c'est pas si choquant que ça, parce que quand même la cohérence reste respectée pour les batailles, puisqu'on joue les clones contre l'armée de la Confédération, donc les droïdes. On joue ensuite l'Empire Galactique contre les rebelles, ensuite on joue le Nouvel Ordre contre la Résistance. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Et même, on retrouve aussi une diversité au niveau des skins, puisque maintenant, évidemment, la grosse évolution, c'est le système de classe. C'est vraiment ça d'ailleurs qui va vraiment chambouler un peu tout le multijoueur. C'est ce qui manquait dans le premier épisode, c'était l'absence de classe. Alors que là, on retrouve des classes et ça change vraiment, vraiment tout. C'est-à-dire que maintenant, chacun a un rôle défini. Et pour l'instant, donc, ce qu'on peut voir pour la bêta, c'est que le rôle est vraiment, vraiment respecté, c'est-à-dire qu'on va pas voir des snipers aller sur le front, on va pas voir des officiers ne pas donner des ordres. Enfin, c'est vraiment par exemple les officiers, ils ont une espèce de boost pour pouvoir augmenter la vie des personnages. On pourrait penser que ça soit mis de côté, que les joueurs ne pensent pas l'utiliser, mais non, pas du tout. Chaque joueur utilise vraiment les capacités de chacun de sa classe, et ça c'est plutôt pas mal.
Et du coup le jeu d'équipe va s'en sortir.
Ouais. Le jeu d'équipe va s'en sortir, d'autant que les objectifs sont beaucoup mieux travaillé. Dans le premier, c'était souvent de la capture, enfin, c'était pas de la capture de drapeau, mais c'est de la capture de zone, majoritairement, où fallait, même s'il y avait des TPTT, par exemple sur la bataille de Hoth, des TPTT qui arrivaient, fallait les détruire, mais...
Dis super vite, TPTT.
C'est le fan qui parle.
Exactement, c'est le côté... Mais le problème, c'est que l'objectif n'était pas assez joué. Chacun jouait un peu pour sa pomme. Et finalement, personne ne pensait à détruire l'objectif impérial ou rebelle, selon le camp.
Du coup, on voit
jouait
des batailles un peu dantesques sur les trailers. Est-ce que tu sais s'ils ont augmenté le nombre de joueurs qui
non,
vont participer au
jeu?
Non,
ça n'a pas changé. C'est le reste du 20 contre 20. Et j'ai aussi posé la question. J'ai un peu taquiné par rapport à Battlefield, puisque voilà, ça reste EA, ça reste DICE. Donc on pourrait voir un rapprochement par rapport à ça. Le truc, c'est que sur Battlefield, les maps sont conçues pour être gigantesques, avec des véhicules qui ont vraiment un intérêt pour traverser la map. C'est-à-dire qu'on va avoir des hélicoptères, on va avoir des avions, etc. Les hélicoptères de transport qui vont permettre de transporter les troupes. Alors que là, c'est pas du tout la même optique dans Battlefront. Dans Battlefront, l'objectif est de faire du combat rapide. C'est-à-dire que dès qu'on va...
C'est plus immédiat.
Voilà.
Donc il faut se rentrer dedans.
Dès qu'on spawn sur la map, on va avoir un combat. C'est sur Naboo, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'on apparaît tout de suite et tout de suite, on va avoir les clones en face qui sont à 200 mètres maximum qui vont commencer à nous tirer dessus. Donc c'est vraiment le but, c'est que ça soit viscéral.
Oui, t'es au cœur de l'action en permanence.
On est au cœur
en
de l'action tout de suite. Et justement, ça évite certains. Malgré tout, ça évite quand même certains problèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spawn kill, et ça, c'est plutôt pas mal. Puisque dans le premier, c'était une des choses qui pouvait être assez rageante.
Oui, je confirme.
On arrive sur une map, on se fait direct instant kill par l'équipe adverse, quoi. C'était assez catastrophique. Alors que là, ils ont réussi à bien découper les maps, c'est-à-dire que dès qu'on est dans une zone de spawn, c'est une zone qui est grisée pour l'ennemi, donc on peut pas s'y rendre, c'est une zone qui est hors combat.
C'est un safe spot, qui permet de repartir au combat.
C'est plutôt pas mal à ce niveau-là.
À t'écouter, et... du coup, ils ont appris toutes les erreurs en fait, qu'ils avaient pu commettre sur le premier Battlefront.
Et surtout que dans Battlefront 1, alors là, on va parler vraiment purement mécanique de jeu, l'une des grosses problématiques, c'était l'impression paintball. Alors c'est vrai que c'est difficile de rendre des impressions de tir immersives quand on a des armes laser, puisque bon, on n'a pas de point de vue réel pour s'adapter, et en plus de ça, c'est vrai que dans Star Wars, quand on tire, quand on voit les personnages tirer, on n'a pas l'impression qu'il y a un fort recul, mais là ils ont réussi à gérer ça sans avoir l'esprit paintball tout en gardant l'esprit Star Wars. Donc c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que les classes comme la classe assaut, voilà, on a une grosse pétoire et voilà, on le voit très bien à l'écran pour encore une fois les premiums. On a vraiment un recul qui se fait sentir. Alors c'est pas un recul comme sur Battlefront, sur Battlefield, pardonnez-moi, où on a des armes de la Première Guerre mondiale et c'est vraiment voilà le gros recul des gros calibres type 308 Winchester où c'est vraiment on sent le truc qui déboîte l'épaule. Là, ça reste du laser, mais ça reste très très viscéral dans les combats et c'est plutôt pas mal. Surtout les héros, par exemple Boba Fett, voilà, quand il tire sa roquette, enfin c'est vraiment sympa.
Et tu le mets dans les héros, lui.
De quoi?
Boba Fett
c'est alors justement Boba Fett c'est vraiment c'est en même temps l'anti-héros parce qu'on le voit très peu finalement à l'écran, mais c'est dans l'esprit des fans de Star Wars, c'est un des personnages les plus cultes,
les plus cool,
les plus cool. C'est vraiment le personnage badass au possible, en sachant qu'en plus ça c'est resté canon pour le coup après le rachat de Disney. Normalement Boba Fett est censé avoir survécu à
absolument
sa tombée, dans le Sarlacc, et ça renforce cet aspect badass du personnage, quoi.
Tellement classe.
Et puis c'est quand même un tueur de Jedi, quoi. C'est l'un des personnages de l'univers Star Wars qui a tué le plus de Jedi avec Darth Vader, quoi.
Qu'as-tu pensé du maniement des vaisseaux?
Alors le maniement des vaisseaux, comme disait Plume si bien tout à l'heure, c'est vrai que ça a été amélioré aussi. Dans le premier, la problématique principale, et je pense
c'était un peu trop loqué.
Un peu trop loqué, mais je pense aussi le problème principal, c'est que ça venait du fait que ça arrivait en DLC. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, je sais même pas si c'était prévu pour être dans le jeu, en fait. Je pense que ça arrive dans un DLC parce que c'était extrêmement demandé par la communauté. Alors que là, ils ont vraiment eu le temps de peaufiner les choses. Alors le seul problème qu'on pourrait ressortir, c'est l'impression de vitesse. Mais ça, c'est un peu le problème aussi qu'on a dans Battlefront quand on joue en avion. Alors pas dans Battlefield 1, puisque Battlefield 1, ce sont des vieux coucous. Donc c'est un peu moins gênant, mais dans Battlefield 3 et Battlefield 4, on joue des jets. Même les jets, ils sont un peu ralentis, évidemment, parce que si on devait...
il faut pouvoir lire l'action.
Voilà, si on devait, ce serait illisible, ce serait vraiment brouillon si on devait se contenter de la vitesse.
Et t'as ressenti la même chose du coup dans Battlefront 2.
Et dans Battlefront, c'est un peu le petit problème qu'on pourrait ressentir. C'est un peu mieux que pour le premier, mais je pense qu'il y a encore peut-être un poil de travail à faire.
Ouais. Moi, ce que j'avais essayé aussi, parce que quand j'avais joué au solo, il y avait des phases
de combat spatial.
Ouais. Et on m'avait dit aussi du côté d'Emotive, qui m'avait confirmé que c'est Criterion qui l'a fait. Emotive fait le solo, mais Criterion fait les phases en vaisseau spatial.
Ouais. Bon,
c'est ce qu'elle m'avait dit en tout cas. Elle m'avait dit à l'époque que c'était pas définitif. Et c'était assez chiant parce que on confondait souvent. C'était une jouabilité à deux sticks. Je sais pas si tu as joué sur console.
Sur PS4, ouais.
Et
je joue sur PC.
T'avais, je sais plus. Il y avait une embrouille entre l'accélération et certains mouvements.
L'accélération qui est sur le stick gauche, voilà. En allant vers le haut, ouais. Ou vers le bas.
Voilà, alors que les mouvements sont sur le stick droit. Certains des mouvements, c'était assez déstabilisant.
C'est assez marrant cette idée d'inversion quand on est en vaisseau, parce qu'en fait j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait les joueurs PC ça ne les choque pas du tout, parce qu'en fait on joue sur PC, on a de base l'inversion, c'est-à-dire quand on descend le stick.
L'inversion c'est normal. Ouais.
Non mais je sais, mais j'ai remarqué à nombreuses reprises que quand il y avait des présentations comme ça, souvent l'inversion était respectée, c'est-à-dire quand on montait le joystick. On montait en haut et quand on descendait de joystick, on descendait.
Non, le contraire.
Justement, quand c'était des phases comme ça, avant la finalité du jeu, c'était il n'y avait pas encore cet esprit-là. Et moi, quand j'ai joué sur PS4, justement, c'est ce qu'on a remonté, c'est que quand on n'avait pas l'inversion des joysticks.
Ouais.
Donc quand on montait, on montait, quand on descendait. Du coup, ça provoquait un certain problème, parce qu'on est, quand on est habitué à jouer justement avec cette inversion, l'axe Y.
Je joue en inversé.
C'est ça. Donc,
c'est très compliqué de changer sa manière de faire quand on est habitué.
C'était vraiment choquant. Alors après, maintenant, avec la bêta, ça a été réglé. On peut vraiment changer dans les options, même sur PlayStation. Mais
heureusement. Ce qui pose problème pour moi, c'est ce qu'on disait avec lui à l'instant, c'est d'avoir l'accélération et le freinage sur le stick de gauche et les mouvements sur le stick de droite, sachant que le stick de gauche a aussi des mouvements quand tu vas à gauche et à droite.
Ouais.
Donc c'est
un peu chelou comme type de maniabilité, mais on s'y fait.
Un joueur console, s'il faut classer les joueurs par famille, il aurait trouvé ça tout naturel d'utiliser les gâchettes
pour
l'accélération et la décélération, parce qu'en plus on a 4 gâchettes, donc on peut quand même tirer avec 2 gâchettes, etc. Et utiliser le stick de gauche normal pour les mouvements et peut-être les mouvements spéciaux avec le stick de droite.
J'ai jamais bien
compris pourquoi est-ce qu'on maniait les vaisseaux comme ça.
En tout cas, la Gamescom, ce que j'avais vu, c'était très bien.
Mais d'autant que
Bah, tu t'es pas planté contre des immeubles et tout ça?
Oh, j'ai tout fait. T'inquiète pas.
Moi, j'ai...
Justement, les...
si tu veux faire des trucs de précision, c'est chaud quand même.
C'est un peu le problème, c'est qu'en fait, les batailles atmosphériques, on va dire, en vaisseau, la sensation de vitesse, c'est là que c'est le plus problématique, puisque la sensation de vitesse n'est pas présente. Par contre, dans l'espace, ça va un peu mieux. C'est-à-dire que grâce aux effets...
Quand tu rases un croiseur, tu le sens vraiment, quoi.
Exactement.
Et surtout,
ouais.
Tu le rases gratis, surtout, tu le sens parce que il y a le son qui fonctionne, mais du feu de Dieu.
Déjà chez DICE, c'est vraiment alors ça, ils sont irréprochables là-dessus. Ça a toujours été le cas chez eux, même depuis Battlefield 2. C'est vraiment un gros travail sur le sound design. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je le dis, hein, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait sur Star Wars Battlefront. Quand on est fan de Star Wars, on peut vraiment être au trip, quoi. On entend les blasters, les accélérations des TIE Fighters, on entend les bruits de sabre laser. Enfin, c'est vraiment extraordinaire le travail qui a été réalisé.
Et on n'oublie pas évidemment de dire que le jeu est magnifique.
Le jeu est magnifique. Alors, encore une fois, pour rien que Battlefront 1. Est toujours aussi magnifique. Il est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ans maintenant, et c'est toujours un des FPS, même des jeux les plus beaux en termes de décor. C'est très photoréaliste. Ils ont gardé cet aspect-là, sauf que maintenant ils ont rajouté des effets, mais assez incroyables. Et surtout, ce qui est le plus incroyable, c'est que l'optimisation est excellente. Pour avoir vu la version PC, donc dans les maximum des conditions, et la version PS4 Pro, il n'y a aucun souci de framerate, aucun souci de lag. C'est irréprochable de bout en bout, c'est-à-dire que aucun pet de lag. C'est extraordinaire comment c'est optimisé, et ça c'est vraiment quelque chose à saluer, puisque c'était aussi des problématiques chez DICE qu'on retrouvait. C'était très gourmand, des jeux très gourmands. Alors là, à mon avis, c'est un jeu très gourmand, mais comme il est très optimisé, ça ne pose pas de problème, et ça c'est plutôt sympa. Alors son abou, on le voit pas dans les trailers, mais quand on vraiment prend le temps de jouer la bataille, on voit, si on le voit un peu là, les effets de feuilles qui volent, espèce de petits
Il y a des petits tourbillons de feuilles, effectivement. Mais ça sur PS4 ils le font pas, je veux dire.
C'est
grâce au physique, ce que tu fais un truc comme ça.
L'effet est disponible sur PS4 Pro.
C'est vrai.
Ouais,
parce que c'était magnifique.
Sur PS4 Pro. Alors il est un peu moins évidemment bluffant que sur PC dans le maximum des conditions, mais il est toujours même présent. Et surtout, enfin.
Xbox One X, t'as pas vu?
Alors j'ai pas vu la version Xbox One X, non, malheureusement. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est là où le gros travail a été fait, c'est sur l'ambiance générale. Alors là, je parlais du sound design, là, c'est vraiment sur l'ambiance visuelle. C'est-à-dire quand on spawn, que ce soit chez les clones ou chez la Confédération, donc chez les droïdes, on a des petites scénettes autour de notre personnage qui sont en train de se faire. On a par exemple des clones qui sont mis en joue par des droïdes, donc par une sorte d'IA. Alors l'IA ne participe pas vraiment, mais on la voit au début. On voit les clones qui sont. Je perds mes mots.
C'est-à-dire, vas-y.
On voit des clones, voilà, qui descendent en rappel des vaisseaux. Enfin, c'est assez. C'est
toujours vivant, quoi.
Ça en met plein la vue.
Il se passe des choses. T'as l'impression d'être sur le front.
Voilà,
que ça pète de partout.
On a vraiment l'impression d'être sur le front. Ça va en mettre plein la vue. Et ça, c'est assez louable de la part de DICE d'avoir fait ça.
Très bien. Donc, ce sera disponible le 17 novembre prochain. Pour
exactement.
L'instant, si on prend la température chez à peu près tout le monde, donc toi, t'as l'air plutôt convaincu, Camille.
Ouais. Convaincu en tant que fan de FPS, puisque. Alors je suis désolé, je rebondis encore une fois là-dessus, mais j'ai remarqué ça aussi, c'est que le jeu me semble beaucoup plus jouant en FPS que le premier. C'est-à-dire que le jeu, c'était un peu moitié-moitié. Mmh. On joue en TPS et on joue en FPS. Là, quand on joue les soldats, j'ai remarqué, alors ça, l'event, tous les journalistes jouaient en FPS. Alors je sais pas si c'est parce qu'on était journaliste ou pas, mais j'en sais rien. En tout cas, j'ai vu pareil sur les vidéos YouTube, beaucoup de gens jouent en FPS. Alors évidemment, quand on joue en héros, on joue forcément à la troisième personne, puisqu'il n'y a pas de vue FPS pour les héros. Mais voilà, c'était donc. Pour les impressions FPS, c'est extraordinaire, et aussi pour la partie, tout ce qu'on disait tout à l'heure, visuel. Donc, voilà, quand on est fan, et ça peut que nous combler.
Très bien. Thomas ?
Bah écoute, il a l'air d'avoir corrigé toutes les petites erreurs du premier, et surtout il a un mode solo, donc moi j'avais plutôt apprécié Battlefront, donc je pense que je vais bien aimer Battlefront 2.
Très bien, Julo ?
Moi je suis à la fois très mauvais et pas très fan des jeux compétitifs multijoueurs.
C'est pas compétitif, hein. C'est pas pensé comme un jeu compétitif. Parce que un Call
c'est
of
deux équipes de 20 qui se.
Mais tu peux pas dire le mot qu'on dit, parce que Call of Duty c'est typiquement un jeu compétitif, c'est-à-dire que c'est la chasse au score. Alors que là c'est pas du tout la chasse au score. Dans ce jeu-là, il y a même pas. Alors ce qu'on retrouve dans tous les jeux compétitifs. Mais
ça n'empêche que je suis mauvais, que je fais partie des mecs qui se font liquider direct et que je prends pas énormément de plaisir. Voilà,
justement.
Je préfère les trucs de coop, tu vois. Je préfère jouer à Destiny par exemple.
Je comprends, mais pour le coup, on peut vraiment pas l'accuser de faire du compétitif, puisque.
C'est plus du coop compétitif, en fait, tu dois structurer ton équipe, réussir ton objectif face à un adversaire.
Il n'y a pas le ratio mort,
Si tu meurs tout le temps.
Kill. c'est ratio chiant. Mort-kill, c'est le ratio mort-kill, c'est vraiment le fondamental qui fait qu'un jeu est compétitif. C'est-à-dire que voilà,
là, c'est les points marqués par ton équipe qui vont compter
exactement.
pour
et
la victoire.
Ça change vraiment tout. De mon point de vue, ça change vraiment tout. Ne pas savoir combien de fois l'ennemi est mort, combien de kills on a fait. Alors si le compteur de kills est montré,
ouais, tu le sais.
Mais on sait pas.
Mais il est indicatif, il a pas de véritable impact.
Il est indicatif, mais il a pas d'impact réel en fait. Ce qui rapporte le plus de points, c'est vraiment jouer objectif. Quand on joue objectif, on gagne 500 points d'un coup. Quand on va par exemple détruire les transports de troupes droïdes, quand on tire une roquette dedans, ça a rapporté 500 points. Alors qu'un kill, ça peut en rapporter que 150. Donc vraiment, il y a un rapport de force qui est assez.
Tu pourras mourir sans honte, Julo. Ne t'en fais pas.
Non, voilà, mais c'est pas la honte, c'est juste que c'est chiant, quoi. tu t'amuses pas. Et donc, moi, je m'étais lassé assez vite du premier épisode à cause de ça, parce que c'est pas mon kiff principal. Et j'avais regretté de pas avoir de mode solo. Donc, j'attendrai de voir ce que donne le mode solo pour. Savoir si j'y jouerais.
Je suis dans le même cas. Voilà. Mais bon, comment on va jouer un soldat d'élite canon, je pense que ça devrait me convaincre
voilà,
dès le départ.
Peut-être, oui.
Une femme, ce qui était assez cool.
Absolument. C'est pour ça que j'insiste bien sur le canon, parce que en fait, c'est canon physiquement.
Ouais,
je voulais dire.
Je crois que tu parlais canon dans le sens.
Voilà, pour Janina Gavinkar qui s'était fait siffler à son entrée à l'E3.
C'était nulissime. On a quand même putain.
À l'E3, en fait, quand elle est rentrée, elle était en jupe.
Ah,
donc voilà, pitoyable, forcément quoi. Dans l'assistance,
la
les messieurs qui se sont dit tiens, on va.
D'ailleurs, un super beau haut qui rappelait justement son personnage.
Je crois qu'elle avait un haut rouge, oui. Si
oui,
je.
C'est ça. Je noir et rouge, il me semble.
Ouais, je sais plus trop, mais en tout cas, bon, bref.
Ouais, c'était minable.
Ouais, c'était absolument effroyable. Ce qu'on espère évidemment pas pour le jeu qui sortira donc le 17 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Et maintenant, messieurs, on va passer au thème numéro 2. Un autre jeu qui a besoin un petit peu d'une rédemption, j'ai envie de dire. Après Star Wars Battlefront 2 qui doit un petit peu laver certains défauts du premier épisode. C'est au tour d'Assassin's Creed Origins qui va se présenter à la fin du mois d'octobre pour essayer bien de corriger certaines choses. Ça faisait... Deux ans qu'il n'y avait pas eu
depuis Syndicate, tout à fait. Fin 2015, et là on peut dire que le jeu espère finir sa traversée du désert, en l'occurrence.
Ce qui veut dire que lui, mais aussi tous les autres qui vont suivre, auront eu un an de développement supplémentaire.
Mais tant mieux.
Tant
mieux ou pas, Thomas?
Ah bah, là, à première vue, pour Assassin's Creed Origins, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, oui, tant mieux. D'abord parce que le fond a un peu été remanié. En fait, on nous a vendu une dimension plus axée RPG et force est de constater que c'est vrai, c'est effectivement une nouvelle tournure, une nouvelle page qui s'écrit pour la saga Assassin's Creed, puisque dorénavant, on va avoir des niveaux non seulement pour le personnage, pour équiper des armes. Chaque mission te définit en fait d'avance un niveau que tu pourras choisir ou pas de matcher, mais libre à toi après de faire ton évolution comme tu l'entends. Et ce qui fait que, en dehors de la trame principale que tu vas évidemment devoir suivre pour faire avancer le scénario, il y a tout un tas de quêtes secondaires en fait qui vont te permettre de creuser un petit peu le background, etc., de récupérer des objets et de gagner en expérience, puisque c'est assez long de leveler. En tout cas, dans la démo qui nous a été présentée, on commençait au niveau 12 et la dernière mission de la démo s'achevait au niveau 18, et mine de rien, t'es obligé de rendre service,
d'explorer.
T'as joué 2h30,
c'est ça ?
On a joué 3h30 en tout, et on était complètement libre en fait de faire ce qu'on voulait. Donc tu peux, comme d'habitude, chercher les points de synchronisation qui vont te permettre de gagner de l'expérience, mais il y a plein de PNJ en fait qui vont te solliciter ou sur lesquels tu vas tomber ou pas, qui vont te proposer en fait de résoudre tout un tas de quêtes, de leur venir en aide.
Alors les quêtes, justement, c'est du générique ou c'est du, on se rapproche un peu de The Witcher, à essayer d'enrober un peu tout ça de quelque chose de,
on sent de, évidemment que The Witcher est passé par là, mais c'est pas vraiment un reproche, mais on va dire qu'Ubisoft n'a pas forcément le talent de CD Projekt pour faire de chaque quête secondaire quelque chose de très prenant, ce qui était le cas sur The Witcher. C'est pas inintéressant en l'occurrence ce qu'on a vu, mais pour l'instant en tout cas, on était plutôt au début du jeu, c'était pas complètement fou à chaque fois. On retombe dans des ficelles assez classiques. Par contre, on a une très grande liberté de mouvement et d'action. Là, ce que vous voyez à l'écran, si vous êtes premium, en fait c'est un lion qui a été capturé sur un bateau.
C'est ton gameplay là, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Et en fait, tu peux par exemple le libérer, le tuer éventuellement pour faire du loot, ou
mais là il va buter tout le monde sur le bateau, le
c'est
lion.
Ça c'était un peu l'idée.
C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir
derrière.
Déjà vu ça quelque part dans un autre jeu Ubisoft, c'est fou.
Et pour le coup, par exemple, si c'était une mission qui ne t'avait pas été confiée, moi ça m'est arrivé pendant qu'on jouait, si tu réalises des objectifs sans qu'on t'ait confié la mission, bah tu la valides quand même en fait. Le jeu estime que bon, ok, t'as pas eu le trigger pour la déclencher, mais t'es quand même arrivé au bout, donc voilà, t'es récompensé par de l'expérience. On voit à l'image des combats, le système de combat aussi a énormément changé.
Et donc tu t'es fait tuer, hein?
Oui,
Oui, plein de fois.
Oui, puisque j'ai tenté, en étant low level, de faire quelques missions d'infiltration, et en fait, ça ne marche pas.
En disant, je vais arriver derrière les gens, je vais leur planter ma lame d'assassin dans le cou.
Bah oui, puisqu'on était habitué à ça.
Et puis, ils vont mourir, et puis voilà, c'est tout.
Et pas du tout. En fait, dorénavant, en fonction du niveau de vos adversaires, vous pouvez seulement entamer leur barre de vie en arrivant derrière et là où on les one-shotait avant. Là,
tu one-shot seulement les gens qui sont à ton niveau ou en dessous, quoi.
Exactement. Ce qui fait que le type qui n'est pas mort va se retourner, va commencer.
C'est The Divisionisé Assassin's Creed.
Bah, un petit peu, oui. Tu vas être obligé de véritablement tenir compte du niveau de tes adversaires avant d'entamer.
T'as pas encore
parlé
des armes et tout ça, parce que c'est pareil, hein, les armes.
Et au niveau des armes, c'est effectivement très différent. Déjà, ça se joue sur les gâchettes et non plus avec les boutons de façade.
Alors, moi, j'ai pas fait 3h30 comme toi. Malheureusement, j'ai pas pu faire ça. Je rentrais du Japon à ce moment-là. J'aurais adoré, mais bon, tant mieux, c'est tombé sur toi. Mais les deux premières fois où j'ai joué, moi, c'était une heure de gameplay à chaque fois, et donc on nous mettait dans des situations où j'ai pas pu voir justement les quêtes, et j'ai pas eu le temps, moi qui connais bien la série, de m'habituer au système de combat, parce que j'étais complètement paumé, j'appuyais jamais sur le bon bouton à cause de mes habitudes d'Assassin's Creed.
Exactement, oui, t'as l'habitude de jouer en façade, alors que là, effectivement, on a un coup faible sur, on va dire, R1 et un coup chargé sur R2. Qui vous met évidemment à découvert pendant ce temps-là. Et le combat qu'on voit là à l'écran résulte du fait que j'ai pas réussi à tuer le type en armure avec son bouclier du premier coup. Du coup, t'es dévoilé, il rameute tous ses potes et tout le monde arrive pour te mettre sur la gueule.
Mais est-ce que c'est forcément judicieux de passer par un système aussi RPG pour une série comme celle-ci, pour un jeu d'infiltration? Parce que là, moi ça me choque personnellement de me dire.
Tu vois une espèce de dualité de.
Complètement,
de côté contradictoire.
Ah, bah complètement, oui. T'arrives derrière quelqu'un, tu du premier coup. Enfin, je sais pas, c'est l'essence même d'Assassin's Creed pour moi.
Tu vas réussir ton infiltration correctement si effectivement tu as un bon niveau en fait.
En fait, ce que ça change, c'est que tu t'approches pas d'une mission que tu peux pas faire. Ou alors, tu vas pouvoir l'infiltrer.
Je trouve ça louche, tu vois.
Au début, et en fait, tu te rends compte que c'est pas possible.
Il y a vraiment un compteur de points en plus de dégâts, quoi.
Oui, tout à fait. Tu vois visuellement la barre de l'ennemi. Par contre, t'as une batterie d'armes, en fait, qui te permet de t'adapter à tout un tas de situations. À un moment donné, j'ai récupéré une masse qu'on voit à l'écran, justement, qui fait quand même super mal. L'impact, en plus, est vraiment bien rendu à l'écran. J'ai tué pas mal d'hippopotames avec ça aussi. Parce que, mine de rien, en fait, on est en Égypte, c'est l'Égypte antique. Et donc il y a beaucoup de faune et de flore environnante et comme il y a une grande dimension de loot, puisqu'on est une fois de plus dans un RPG, il va falloir looter, il va falloir crafter en fait pour améliorer son équipement.
Il y a du craft aussi.
Il y a du craft en fait, il y a toujours ce système de capacités qu'on débloque au fur et à mesure. Dès que tu gagnes un niveau, tu vas pouvoir débloquer des capacités, le double assassinat, enfin tous les trucs très classiques qu'on connaît de la série. Mais tu vas devoir aussi crafter pour améliorer ton équipement secondaire, tes flèches, ton carquois, etc. etc.
Je comprends ton inquiétude, Plumeau.
Ah mais je suis pas inquiet, je suis terrorisé.
Oui, mais en même temps, tu vas vivre un truc, une montée. Parce que dans tous les Assassin's Creed, il y a une espèce de montée en puissance parce que tu débloques des nouveaux coups, etc. Je trouve qu'on va la sentir d'autant plus et que ça risque d'être assez kiffant pour le joueur de grimper en niveau et d'utiliser de plus en plus d'armes, de choisir ses préférés et de pouvoir justement gagner en puissance véritablement.
Oui, mais est-ce que le public va vraiment adhérer à cette idée que maintenant,
je sais pas.
Quand t'arrives derrière quelqu'un et que tu lui plantes une lame dans le cou,
il
meurt
pas. Ça marche. Sauf si tu essaies d'assassiner des gens qui sont beaucoup plus forts que toi.
T'auras des gens qui auront le level quand même, ça changera ton approche. Mais moi, sur la fin de la démo, à un moment donné, je me suis retrouvé devant un fort gigantesque.
Tiens, 13 et 16 là, par exemple.
Ah ben là, ça fonctionne.
Ça a marché, tu vois. Il y a une différence de 3 niveaux.
Là, c'est one shot. Le mec qui est en dessous, boum, c'est pareil.
Niveau 15, il est niveau 13.
Je l'assassine directement.
C'est juste qu'il faut pas abuser, c'est tout.
Et vous voyez, quand je disais que j'ai tué beaucoup d'hippopotames.
T'as attaqué par 2.
Mais t'as croisé des hippopotames niveau 12 dans ta vie pendant que t'étais niveau 7 ou pas?
Pendant que tu vogues sur les flots, oui.
Ah, parce qu'ils ont un niveau aussi, les animaux.
Oui, les animaux aussi ont un niveau, tout à fait. Et eux, c'est pareil.
Tu vois, t'as des lions niveau 42, quoi.
Ouais, bon. Ces hippopotames, c'est les animaux les plus dangereux pour l'homme.
Oui, absolument.
Ah, mais
en Afrique,
vraiment,
ils tuent plus que à peu près tout.
Mais pour la montée en puissance, juste sur finir ce que disait Julo, moi j'ai eu une sensation un petit peu grisante quand même à la fin. Quand tu t'attaques à un fort, tu te retrouves devant, tu lances ton aigle pour faire un petit peu de repérage et voir où sont les ennemis qui vont t'attendre, les ennemis, les animaux, etc. Puisque on l'a pas dit, mais il n'y a plus ce système de scan qui te permet de mettre en surbrillance tous les éléments comme à peu près tous les jeux d'action depuis quelques années. Là, il faut à la Far Cry Primal ou tant d'autres jeux chez Ubi envoyer ton aigle en reconnaissance qui va te permettre de repérer un petit peu et d'afficher
sur
la carte.
Mais c'est pas très automatique non plus, c'est-à-dire qu'avec ton aigle, il faut vraiment que tu regardes partout parce que souvent tu vois pas bien. Ouais.
Tu peux louper des ennemis parce que tu les as pas scannés, du coup tu vas te faire surprendre quand tu vas infiltrer, mais du coup t'arrives dans un fort où tu commences à éliminer les ennemis un par un, t'infiltrer, battre le boss, et pour prendre les forts désormais il faut,
t'envoies les pyramides,
il faut assassiner le capitaine, il y a tout un tas d'objectifs à remplir. Comme tu commences, là on était au bout de la session donc ça faisait 3 heures que je l'avais dans les mains, t'as des super sensations de jeu et c'est grisant en fait de l'infiltrer au fur et à mesure et de comprendre les mécaniques.
Et tu as aimé le système de combat et tu le maîtrises beaucoup mieux que moi, j'ai pu le faire pendant mes sessions.
Oui, mais
qui
parce
duraient
qu'on a
une
eu
heure.
Plus de temps pour
voilà.
s'y faire.
On voyait une vidéo tout à l'heure où tu te battais là contre de multiples ennemis parce qu'ils attaquent tous en même temps maintenant.
Oui, hein, ils sont enfin intelligents.
C'est, voilà. Ça y est,
ça, c'est la grande nouveauté de la série, les ennemis sont
et
intelligents.
Et donc, désormais, tu peux aussi locker, c'est très important de locker un de tes adversaires et du coup, tu les tournes autour, tu sais. T'es,
voilà, ouais,
tu,
à la Dark Souls, quoi.
À la Dark Souls, exactement.
Enfin, à la Zelda aussi, tu me diras.
Voilà, largement avant. Dans d'autres jeux, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois vraiment. Mais c'est vrai que c'est proche de Dark Souls dans le sens où tu dois beaucoup utiliser l'esquive.
Tout le jeu vidéo, c'est Dark Souls, on n'arrête pas de le dire.
Et du coup, une petite question, est-ce qu'on a le fameux respawn d'ennemis qui est un peu chiant dans les jeux Ubi quand on, par exemple, quand on vide un fort que les ennemis sont tous morts, est-ce que si on y revient quelques jours après, est-ce qu'ils vont réapparaître ou...
Sur les petits forts que j'ai vus, oui. D'accord. Oui, il y a toujours ce respawn d'ennemis, effectivement.
C'est un peu chiant.
Que tu l'as validé en tant qu'objectif, mais le jeu finit par faire repopper des ennemis pour redonner de la vie à tel ou tel endroit, où j'imagine alors, pour attention. Que telle région reste hostile en fait à partir du moment où tu rentres dans certains
dans
lieux.
Dans les précédents Assassin's Creed, quand tu
levais le drapeau ou des choses
voilà,
comme ça.
Quand tu avais récupéré une zone, il y avait plus d'ennemis. Enfin.
Ça dépend. Ça dépend si c'était quelque chose de
qui devait rester une zone ennemie,
qui faisait partie d'un objectif. Là, tu sens bien qu'il y a
au moment où c'est un objectif,
il y a des zones hostiles qui vont le rester de toute façon, même si tu défais tout le monde.
Justement, maintenant, une des modes dans le monde ouvert, c'est justement de faire des ennemis uniques entre guillemets. Ou si un ennemi meurt, bah il meurt quoi. C'est-à-dire qu'il va pas réapparaître.
Et il y a aussi une variété en fait de manières de résoudre certaines quêtes. Il y a un moment donné un chariot en fait que tu dois détruire et quand j'en ai parlé notamment avec Karaj, on a fait des choses très très différentes. En fait, tu n'as pas une seule et unique manière de résoudre certaines missions, enfin d'accomplir certains objectifs. Du coup, ça te laisse une fois de plus une grande liberté d'action. Et il y a surtout tellement de quêtes secondaires, tellement d'objets à récupérer que personne ne fera la même partie en fait, parce que tu iras chercher toi ce qui t'intéresse le plus en fait dans Assassin's Creed Origins.
Le looting est hyper important dans...
Et il est hyper long en fait. Moi je me suis rendu compte que pour améliorer notamment le carquois qu'on avait, parce que tu pouvais utiliser beaucoup l'arc pour chasser, il fallait looter à mort. Il va falloir que tu génocides des régions entières, parce que il faut buter tellement de lions, tellement d'hippopotames, tellement de crocodiles pour réussir à améliorer ton équipement que ça va
plaire à la pétasse.
Ça va te prendre. Non mais c'est clair. Non mais je me suis vu, si tu veux, moi j'aime pas faire du mal. Je me suis vu éclater des hippopotames par dizaines pour récupérer.
Moi j'ai pas envie de tuer un hippopotame personnellement.
Mais tu vas être obligé. Je te jure, parce que si le réalisateur du jeu
autrement
nous l'a dit, le crafting va être hyper important pour progresser en fait dans cet épisode, donc tu vas être obligé de faire
en fait,
du mal aux animaux.
En fait, moi, il n'y a qu'une seule chose. Je partage pas forcément les inquiétudes de Plume, mais je les comprends parce que c'est assez logique. Mais le vrai truc qui m'inquiète, moi, dans ce que tu me racontes, et ce que j'attendais le plus comme bonne nouvelle de ta part quand tu es revenu de Londres après cette longue session de jeu, c'était justement de me dire ouais, le scénario, même des quêtes annexes, va être cool. Et en fait, tu le dis pas, hein.
Non, de ce qu'on a vu, c'était pas forcément transcendant en fait.
Et ça me fait chier quoi. Parce que c'est vrai qu'ils ont déclaré.
Tu pourrais modérer ton langage s'il te plaît.
Annexe comme principal.
Inspiré de cette grande réussite qui est The Witcher 3, parce que, enfin, je veux dire, moi quand j'ai joué à ce jeu, je savais pas que j'étais dans une quête annexe quoi. Je pensais que j'étais dans le fil rouge principal.
Oui,
quoi.
Puis même après, tu t'en fous, tu les fais toutes parce qu'elles sont toutes intéressantes.
Voilà.
Il y a toujours un propos.
Et ça m'a surpris parce qu'après, je revenais sur le truc principal. Je dis, attends, ce que je viens de faire, c'était annexe. Putain, le scénar génial, les persos cool et tout. Et là, je me fais le scénario du Baron Rouge là.
Ouais.
Et je croyais être dans un truc annexe du coup. C'est pas possible. Ah, ça se trouve, j'ai pas besoin de le faire. Je vais le faire quand même. Ça a l'air cool cette histoire. Mais c'était l'histoire principale. Donc j'étais paumé. Donc t'as l'impression d'être dans un univers ultra cohérent, etc. Et donc si tes missions, je sais pas, tu peux nous raconter un peu, t'as eu quoi comme objectif par exemple?
Tu as des petites enquêtes où par exemple tu dois, comme c'était déjà le cas dans Unity, tu dois récupérer tout un tas d'indices qui vont t'amener à avoir une conclusion pour trouver un cadavre.
Est-ce que le personnage est un peu de corps, est-ce que...
Non, t'as un enchaînement d'événements après qui font que tu ramènes le cadavre au père qui va te dire il va falloir venger maintenant mon
donc
fils.
Donc au niveau qualité de mission,
tuer, c'est...
tu dirais qu'on est au même niveau que les anciens Assassin's Creed en fait?
Honnêtement oui, parce que c'est beaucoup de
ça c'est une grosse déception.
C'est ouais, beaucoup c'est d'assassinat. En tout cas, de ce qu'on a vu, hein, c'est va assassiner machin, va sauver Bidule qui a été capturé par un tel, va tuer ou va looter 15 plantes de telle espèce, etc.
J'espère que le test contredira.
Il n'y a pas eu de quête secondaire transcendante qui atteint le niveau d'un The Witcher. Bah, sur les principales, en fait, on n'en avait pas tant que ça finalement, parce que comme tu dois rapidement monter en niveau pour faire les missions suivantes, on a surtout fait de l'exploration et de la quête secondaire.
Ça me vient une question, l'exploration, c'est est-ce qu'elle est bien mise en avant? Parce que moi, je sais que dans Assassin's Creed, j'adore l'exploration.
C'est fabuleux.
Elle est mise en avant.
C'est fabuleux. Je veux dire, on avait accès au cheval de suite, en fait, donc tu pouvais appeler ton cheval, te balader, combattre des ennemis même en étant à cheval. Quand j'ai vu que
tu
avais des barques,
oui, tu peux prendre un chameau.
Mais est-ce qu'on pourra prendre des hippopotames? Ça, c'est la grande question.
Je ne sais pas, j'ai pas pu dresser des hippos pour
Dans
l'instant.
Zelda, tu peux chevaucher.
Mais t'as vu des temples et tout, des trucs.
Il y a des tombeaux, il y a des barques que tu peux prendre. Moi, quand j'ai découvert que tu pouvais prendre un bateau et traverser le Nil, c'est juste fabuleux. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. À un moment donné, tu tombes sur les pyramides de Gizeh qui sont là, qui sont magnifiques. Parce qu'elles ont été construites il y a quelques siècles seulement, donc voilà, elles renvoient la lumière.
Elles ont encore leur socle d'or au-dessus.
Tout invite à partir à l'aventure, à explorer, et je pense que du coup, c'est le pari en fait qu'ils font dans le fait que tu sois obligé de leveler, c'est que comme si en tout cas tu accroches, comme tu vas être porté par cet univers, que tu vas aller chercher à le découvrir, tu vas prendre du niveau et tu vas comme ça pouvoir progresser sur la quête principale.
Ouais, c'est le setting. Enfin, je veux dire, ça fait partie des settings vraiment idéaux.
Pour situer un jeu de cette envergure.
Pour un jeu historique, voilà, l'Égypte antique, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça?
Et alors, ce que nous disait le réalisateur du jeu, c'est qu'ils ont choisi en fait la fin de l'Empire égyptien, parce que là, voilà, il y a Cléopâtre, donc les Grecs sont au pouvoir, on est clairement sur la fin de cet empire. Mais selon eux, c'est un moment de l'histoire où l'Égypte est encore suffisamment mystérieuse pour que même le personnage principal, Bayek, découvre en fait des choses de cette civilisation à laquelle il prend part intégralement. Donc
sans parler du truc dont on ne peut pas parler parce que ça va pas être dévoilé avant la sortie du jeu et avant qu'on le prenne en main, c'est le côté méta-histoire, c'est-à-dire le temps présent et l'affrontement entre les assassins qui n'existent pas encore et qui vont exister là, et même des templiers qui vont exister à travers ce qu'ils appellent les anciens dans
Mais à mon avis, il y aura pas la réponse dans celui-là. Hein.
J'espère en tout cas, mais le truc qu'on va rester dans l'antiquité pendant quelques épisodes, ça serait génial quand même, parce qu'il y a quand même la Grèce à voir.
Je t'aurais posé la question en fait, j'aurais demandé si le fait de repartir sur l'Égypte antique, ça allait leur permettre de combler des trous en fait entre les deux. Ils ont pas voulu répondre. Pour eux, voilà, ils sont sur Assassin's Creed Origins.
Mais il y a pas de partie dans le présent pour l'instant.
Il y en aura une, c'est obligé. Moi, j'ai la question à chaque fois que j'ai eu quelqu'un à qui je pouvais la poser, et tu sens que les mecs
veulent me la poser. La semaine dernière, j'ai pas tout compris, mais je t'ai répondu oui, si tu veux.
Ah ouais. Non, à chaque fois que j'ai pu rencontrer quelqu'un de l'équipe, donc je l'ai posé, et t'as des petits sourires qui veulent tout dire, quoi. Les mecs, ils peuvent pas le dire encore.
Mais si t'aimes la saga, t'as envie de voir la méta-histoire continuer, t'as envie d'en apprendre.
De toute façon, vous savez comment ça va se passer. En février, ça va fuiter, on saura déjà quel est l'épisode qui sort dans 2 ans, et puis voilà.
Et c'est le côté un peu mystique d'Assassin's Creed qui est génial. Et ce qui est top avec un setting comme l'Égypte antique, c'est qu'il y a beaucoup de mystères. Enfin, il y a toujours des gens qui croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres, que
si tu nous regardes.
Oui, ils en ont joué dans un des derniers trailers qui est sorti d'ailleurs.
Il y a des tas de trucs magiques et mystérieux, quoi, de cette époque-là.
Et comment le nez du sphinx est tombé? Parce que ça,
c'est Astérix. C'est
en plus intéressant de voir qu'ils ont pris des vraies références historiques, des petits points. Par exemple, le fait qu'il y ait le sommet de la pyramide qui soit en or, ça c'est quelque chose qui est remis en cause, et en même temps, enfin, certains historiens le remettent en cause, d'autres disent au contraire que c'était quelque chose de tout à fait réel. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi qu'ils aient incrusté des petits éléments comme ça.
Oui, alors on sait qu'ils sont pas, et de temps en temps ils tentent un peu l'anachronie hein, sur Unity, les drapeaux bleu blanc rouge qui n'étaient absolument pas là à l'époque.
Je sais pas s'ils ont, c'est une maladresse, ça je pense, ou alors
je pense pas que ce soit une maladresse. C'est t'en as besoin pour habiller ton jeu, c'est des éléments visuels dont t'as besoin. S'ils sont anachroniques de quelques années, je pense que tu te dis tant pis, on a besoin de ça pour situer le contexte.
À ce moment-là, il y avait juste la cocarde.
Voilà. Je pense qu'ils le savaient très bien, mais qu'ils ont décidé de faire avec. Bon. Et ça sera peut-être le cas pour celui-ci aussi.
Tout ça pour demander, Thomas, le hypomètre est à quel étage pour
bah, écoute, moi, je l'attends vraiment parce que.
Tu sais que c'est moi qui vais le tester.
Je sais bien, oui, évidemment. Et à la limite, j'ai envie de te dire tant mieux parce que.
Ou alors, non, je te laisse le test et puis moi, j'y joue tranquillement.
Non, non, mais parce Mario, ça me va très bien.
Ah,
en
mais
fait.
C'est vrai, t'as Mario,
voilà. Voilà. Hey, tu peux pas tester.
Voilà. On a sacré fin de une sacrée
non, mais justement, c'est un jeu qui va demander du temps, qui va demander de l'investissement, qui va demander de le découvrir à son rythme. Et moi, c'est une aventure qui me fait vraiment envie. Ouais.
Déjà que j'ai rendu Forza 7 très en retard, hein, t'imagines.
Ouais,
avec
c'est vrai,
Assassin's Creed Origins.
Merde. Et t'es fier de toi?
Non.
Bah ouais.
Pas du tout. J'ai honte.
Oui, mais t'es honte, mais en même temps, tu t'en baillais, j'ai l'impression.
Je m'en baillais.
Fallait que tu la places.
Ouais, fallait que je la place.
Ah oui, évidemment. Bravo, bravo. Ouais, bah moi, mon hypomètre, il est assez élevé aussi. Même si je suis méfiant, tu vois. Je suis déçu de ce que nous ramène. Enfin. Pas de toutes tes impressions, tout.
Non, mais
tout
tu espérais
cool.
plus de.
J'espérais
de
plus de la narration. Ouais. Vraiment. Et j'espère que, en jouant le jeu
sur
tout début jusqu'à la toute fin, on en ressortira avec l'impression quand même que ça a beaucoup progressé.
Ouais.
Je croise les doigts.
Très bien. Camille, toi, t'avais l'air super hypé.
Je suis assez hypé, ouais. Bah, d'autant que l'Égypte antique m'intéresse plutôt vraiment pas mal. Donc, ça, c'est un gros point fort pour moi. Après, exactement comme Julo, j'ai une petite réticence. Tant que je ne peux pas voir les quêtes secondaires, leur intérêt vraiment scénaristique, je resterai un peu mesuré. Mais c'est vrai que je suis quand même bien hypé. Il y a deux choses qui jouent pour moi. C'est évidemment l'absence pendant 2 ans et puis le setting de l'Égypte qui, pour moi... bien au-dessus de n'importe quoi d'autre.
Et toi, t'as épée ou tu t'en baillec alors?
Moi, je m'en baillec personnellement. Okay. Mais ça fait longtemps que j'ai lâché Assassin's Creed, hein, donc malheureusement,
non, mais
je crois que.
Tu pourrais peut-être être surpris.
C'est une question que je me pose. Est-ce que ça va être, au regard de tout ce que Thomas nous dit, est-ce que ça va être le bon moyen de faire revenir justement les fans qui auraient été déçus par les derniers épisodes? Est-ce que ça va être un bon moyen de faire venir les novices? C'est des questions que je me pose, mais personnellement, je suis pas. Enfin. Je sais pas, j'ai envie de voir, voilà, j'ai envie de savoir avant de pouvoir me dire tiens, je vais me plonger dedans, parce que je sais pas.
Mais tu sais que les épisodes un peu à part comme ça, justement, ils sont souvent très bons. Par exemple, Black Flag.
Bah, c'est l'équipe qui est derrière Black Flag,
voilà,
en fait.
Bah
c'est l'équipe de Black Flag, ouais.
Bah voilà,
c'est... Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque
bah
c'est
ouais.
quand même mon préféré.
Ah, voilà. Putain.
Eh oui, allez, désolé, Julo, mais le bateau, putain, tu peux pas test, quoi.
Bah, le bateau, il y en avait dans le
3. Ouais, mais là c'est une chasse au trésor fabuleuse.
Mais aussi, le setting extraordinaire quand tu te retrouves sur les îles désertes.
En fait, je trouve ce jeu extraordinaire. Mais c'est pas un super Assassin's Creed,
oui,
quoi.
Je sais, voilà. C'est ce que tu m'avais dit. Moi,
c'est le jeu de pirate rêvé, mais c'est pas un
exactement.
Très bon Assassin's Creed. Voilà.
Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont permis de sortir un jeu sur les batailles navales de tirer de Black Flag.
Ouais.
Le côté Assassin's Creed n'était pas assez présent et du coup, il fallait peut-être en faire autre chose, quoi.
Absolument.
Et juste une petite question, t'as essayé la flèche que tu continues à diriger?
Alors, ce qu'on a vu en vidéo, non, moi je ne l'ai pas eu, je l'ai pas débloqué.
T'as pas eu la flèche Robin des Bois, Kevin Costner?
Non, tout à fait. L'effet est top.
Comment ça s'appelait? Hot Shots.
Ouais, mais eux, ils ont repris justement le truc. C'était une parodie, rappelle-toi.
C'était génial.
La flèche que tu pilotes par télékinésie, non, moi je n'ai pas eu l'occasion de la tester parce que je ne l'avais pas dans mon arsenal. T'avais une capacité où tu pouvais aussi accélérer le temps de 6 heures en 6 heures pour faire tomber la nuit ou pas, parce que certaines quêtes te demandaient de venir voir machin au tomber du
jour. Est-ce que tu as fait un truc qu'on faisait avec tous les jeux d'avant? C'est-à-dire, tu t'arrêtes de marcher avec ton personnage, tu poses la manette et t'attends de voir ce qu'il fait comme animation.
Alors non, pas du tout.
En fait, c'est comme dans Cuphead, il dandine.
Le temps nous était compté, donc non.
Et là, moi, je l'ai fait sous les conseils d'un développeur qui était à côté de moi, et t'as une petite animation comme ça, comme dans les anciens jeux.
Comme avant, comme
t'as
Mario.
T'as plusieurs
qui
animations
s'endormait.
D'ailleurs. Bah, en l'occurrence, celle que j'ai eue, c'est son aigle qui part, qui se repose sur son bras. Et ensuite, il lui donne à manger, etc.
Mais c'est
et
passionnant, ça, Julo.
Bah oui, c'est cool.
C'est des petits détails qui enrichissent un petit peu le personnage.
Et il finit même par s'asseoir quand tu fais rien, etc. Enfin, voilà.
C'est fou. Et puis après, il se met à pioncer. Puis après, il va au GOG. Enfin, tu vois, il se fait un petit déjeuner.
Ce qui me rend dubitatif, c'est le mec qui a travaillé sur cette animation, tu vois. Il sait que peu de gens vont la voir, mais il a pris, tu vois.
Mais c'est peut-être encore plus intéressant, justement.
Pour pouvoir la faire, tu vois, c'est ça qui est...
En tout cas, je peux te dire que, moi, je sais pas si tu l'as fait, mais Camille, ça va te plaire. C'était pas les pyramides de Gizeh pour ma part, je sais plus laquelle c'était, c'était à côté de Memphis.
T'étais sur la route?
J'étais sur la route de Memphis, enfin je sortais de Memphis, et je tombe sur cette pyramide, et là je regarde, etc. Et puis tu finis par voir l'entrée, et là t'as ce moment magique, en fait, où tu commences à grimper un petit peu sur cette face où t'as repéré l'entrée. Et là tu rentres, et il y a des toiles d'araignées partout, et tu rentres là, et là il y a une phase de, comment on appelle ça, de tomb raiding, quoi, qui commence.
Ah, ça c'est extraordinaire, voilà. C'est vraiment ce que j'attends.
Et malheureusement, malheureusement, c'est encore une mauvaise nouvelle. Et là, en plus, je me suis fait confirmer par les développeurs et tout. C'est que j'ai trouvé ça un peu court.
Ouais. T'es l'exploration pour... de la tombe, tu veux dire?
Ouais.
T'en viens vite à bout.
Et en fait, moi, j'avais envie
alors
que ça soit long,
alors
comme
que
dans
ça doit
Assassin's
repousser
Creed
des,
2,
des pillards pendant des siècles.
Voilà. Et où t'avais ce moment de solitude un peu que, qui durait longtemps avec des vrais puzzles et tout. Là, t'en as, mais c'est court. Et j'ai demandé aux développeurs, mais ils sont tous courts comme ça. Ils m'ont fait, ah, ils sont tous, ouais, plus ou moins courts. Ouais. Voilà.
Bon.
Décevant. Mais bon, écoutez, ce moment magique où tu rentres dans la pyramide quand même. Et je pense que des moments comme ça, il va y en avoir plein, quoi.
Et ben ça, on saura quand on aura la version test qui arrivera à la rédac. Et on rappelle donc que Assassin's Creed Origins sort le 27 octobre sur
tout
PS4, Xbox One et PC, le même jour que Super Mario Odyssey, que Wolfenstein 2 The New Colossus. Et je crois que j'en oublie encore un, hein, mais ça fait déjà trois jeux quand même de ouf.
Bah, Super Mario
prévu
3D,
de
oui.
ouf.
Yoma Wally aussi. Stranger Things.
Voilà, la saison 2 de Stranger Things, on en parlait tout à l'heure, absolument.
Exactement.
Allez, dernière ligne droite de ce podcast, on s'attaque au test de la semaine, il y en a eu pas mal. On va commencer avec La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre, on va passer
c'est
à peu près
morceau.
Une minute à peu près hein, sur chacun des jeux. On va rapidement...
Pas sur La Terre du Milieu.
De quoi?
Pas sur La Terre du Milieu.
Bon, on va résumer rapidement.
C'est le test, c'est le focus.
Oui, c'est le gros test de la semaine, mais on va essayer d'être concis parce que le test en lui-même... Il est sur Gameblog, vous pouvez le lire, vous pouvez l'admirer, vous pouvez le reluquer, vous pouvez même
le lécher.
Le lécher, absolument. Vous pouvez ouais. même vous caresser en même temps que vous lisez. Vous pouvez non, peut-être
en pensant à Camille.
Non, on va éviter toutes ces choses-là.
C'est
un peu
pas interdit.
Non. Arrêtez un petit peu là. Oh les gars, ça devient malsain. La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre, mon cher Camille, qui sort le meilleur jour de l'année, est-il
on le saura. Hein.
À la fois une bonne suite et à la fois un très bon jeu en lui-même.
Bah alors justement la problématique, je crois pas d'une problématique décidément. Ouais. Dans le premier épisode, beaucoup de gens ont décrit ce Shadow of Mordor comme un sous Assassin's Creed, c'est-à-dire que c'était un peu les mêmes mécaniques de jeu. On
tout le monde a loué quand même le côté assez surprenant des mécaniques de
bien
jeu,
sûr,
etc.
Bien sûr,
le système Nemesis.
Bien sûr. Bah, c'était un des reproches qui avait été fait, mais évidemment, après, on s'est rendu compte que c'était bien loin d'être le cas et qu'il avait vraiment une personnalité propre, notamment ce fameux système Nemesis qui était bien travaillé à l'époque, mais qui était peut-être pas assez approfondi comme on l'aurait espéré. Alors là, dans le 2, tout a été corrigé, le système Nemesis est bien plus imposant, bien plus important, et pour le gameplay, il a une véritable consistance, quoi. C'est quelque chose de... Oui.
On rappelle rapidement ce qu'est le système Nemesis. Alors, en fait, c'est un système qui permet de recruter des personnages, enfin des orques en l'occurrence, parce qu'on affronte que des orques,
ouais.
Des orques qu'on aura combattus. On peut choisir de les laisser filer,
exactement.
De les tuer, de les emmener, enfin de faire qu'ils s'infiltrent vers la base d'une autre troupe orque.
En fait, le but, c'est de rendre le monde vivant, en fait. Mm. C'est que les ennemis soient alors qu'il y ait des ennemis qui soient personnalisés, qui aient leurs propres caractéristiques, qui aient leur propre histoire et qui aient vraiment un intérêt narratif aussi. Et donc justement, système Nemesis marche très bien. Alors comme disait Plume, voilà, on peut recruter des orques, ils peuvent se battre entre eux. Enfin, ils ont une intelligence aussi artificielle qui est assez poussée. Mmh. Ils ont chacun, ils peuvent avoir des rivalités. Alors pour ceux qui connaissent bien Tolkien, c'est souvent le cas. Il y a plusieurs clans orques qui existent. Et chacun peut se taper un peu dessus pour savoir qui dirige quel ou tel lopin de terre. Enfin, c'est assez intéressant. C'est du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas vraiment du Seigneur des Anneaux non plus, parce que c'est du Tolkien. Et en même temps, c'est pas du Tolkien, parce que c'est pas canon à l'univers de Tolkien. D'ailleurs, moi, si je devais faire vraiment un reproche au jeu, ça serait un peu ça, c'est-à-dire que ça respecte pas vraiment... honnêtement, pour dire la vérité, Tolkien se retournait dans sa tombe à de nombreux moments du jeu, à tel point c'est un peu du voilà, c'est un coup de pied dans la tombe de Tolkien.
Il faut faire un jeu d'action avec quelque chose de spectaculaire, voilà. Donc forcément, comme on peut pas dire non plus que
mais le truc c'est oui, mais...
tous les bouquins de cet univers de la Terre du Milieu, ce soit des trucs où il se passe toujours quelque chose. Hein. Moi je vois par exemple Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, il ne se passe quasiment rien, c'est chiant comme la pluie. Mais c'est
préféré.
Après que mais c'est celui qui est le plus lent,
c'est celui qui installe un univers. Et...
Oui,
c'est magique.
Mais il prend beaucoup de temps pour installer l'univers.
Voilà,
oui,
c'est juste ça que je voulais dire. Après, je te dis pas que c'est de la merde. Hein.
Tom Bombadil, c'est dans lequel?
C'est dans le premier.
Ouais, bah, je le tège en l'air, lui. Tom Bombadil.
Pourquoi?
Je l'aime pas.
Ah bon?
D'ailleurs, je
regrettais qu'il ne soit pas dans les.
Ah bah moi, je dis bravo. Quand Peter Jackson a décidé, parmi les seuls petits trucs qu'il a enlevé, parce qu'il n'a pas enlevé beaucoup, il a enlevé ce gros con de Tom Bombadil. Et bah c'était très bien.
Tu sais qu'à la base il devait y être, puisqu'il y a une photo qui avait fuité de l'acteur qui devait le faire. Et
t'imagines comment ça aurait été chiant, tout ce passage de comédie
musicale. Ils auraient chanté et puis c'est tout.
Ouais. Oh là là, Tom Bombadil. Moi j'ai lu les bouquins, hein.
Pareil, ouais.
Et c'est le seul moment de ma lecture des trois bouquins, qui sont quand même représentent plus de 1200 pages en tout, je crois, un truc comme ça. C'est le seul moment où je me suis fait chier. Voilà, je tenais à le dire.
Très bien. Bah, bon, bref, tout ça pour revenir au côté spectaculaire.
Il
n'y
a pas de
bombardier
dans
obligé.
Le jeu.
Non.
Bon,
mais c'est bon. Justement, c'est quand même assez contradictoire. L'univers de Tolkien est énormément vaste. Et ils nous ont créé des alors les personnages, encore ça peut se comprendre, mais ils ont créé des créatures comme si on n'avait pas déjà suffisamment dans le monde de Tolkien. Quoi. Il y en a déjà des centaines qui sont listées. Et en plus, on doit en inventer. Surtout pour des créatures qui n'ont aucun sens. Par exemple, dans le jeu, on rencontre. Alors je ne me rappelle plus le nom qu'ils ont donné parce que ça m'a saoulé. Non, c'est des wargs. Dans
ouais.
Les wargs, ce sont les cavaliers.
Espèces de...
Ce sont les créatures que chevauchent les orques.
Ouais, des espèces de loups géants.
Voilà, ils en ont mis d'autres. Ils ont changé le nom et c'est d'autres créatures qui leur sont comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas des wargs. C'est tout à fait extraordinaire d'avoir fait ça. Je trouve ça assez choquant. En tant que fan du Seigneur des Anneaux, enfin de Tolkien tout court, d'avoir fait ça, enfin il y avait déjà
beaucoup de choses chose dans l'univers pour en rajouter, quoi.
Pourquoi devoir en inventer? Sinon le reste, il y a quand même des parties scénaristiques qui sont intéressantes. On apprend.
Mais attends, excuse-moi, mais tu dis que c'est décorrélé des bouquins. Mais ça se passe à quel moment en fait?
Alors avant. Justement, ça se passe
avant le Seigneur des Anneaux.
Ça se passe avant le Seigneur des Anneaux. Ça se passe avant que Minas Ithil devienne Minas Morgul. Donc Minas Ithil pour restituer et Minas Morgul, alors pour ceux qui ont vu que les films, c'est dans le troisième film, Le Retour du Roi, quand Frodon doit grimper et faire la petite grimpette pour se retrouver chez l'araignée, c'est la cité qui est un peu verte, c'est la cité en fait où niche le roi sorcier d'Angmar, donc le seigneur des Nazgûl. Et donc c'est cette cité-là, on apprend quand elle est tombée en fait aux mains de Sauron en fait, quand elle était une cité du Gondor, et voilà, donc elle était toute belle, toute blanche comme Minas Tirith, et elle s'est transformée en cité du Mordor. Donc voilà, pour situer un peu niveau histoire, c'est ça, mais en même temps, ça s'inspire du film, parce qu'en fait, les personnages qu'on voit, ils ont le visage de ceux du film. Par exemple, Gollum, c'est typiquement le Gollum du film. Il a la voix du Gollum du film, il a la gestuelle du Gollum du film, il a le physique du Gollum du film, etc. Pareil.
Attends, il y a Gollum.
Il y a Gollum, ouais, dans le.
Mais.
Bah, Gollum, il est.
Mais il est censé être dans sa grotte.
Mais non, bah justement, c'est là. C'est
il en est jamais sorti.
C'est justement une des problématiques dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des encarts, des gros encarts.
Il y a Gollum à l'extérieur.
Il y a Gollum à l'extérieur, ouais.
Mais c'est pas possible.
Oui, mais le public veut retrouver des personnages, tu vois. Il y a des visages.
Ils les font aller dans la caverne, j'en sais rien.
Bah oui, mais il faut faire ça. C'est comme tu fais affronter des balrogs à un mec qui est censé être ressuscité grâce à un elfe mort il y a je sais pas combien de milliers d'années.
Tu l'as vu.
Enfin, c'est des trucs que t'es presque obligé de le faire pour pouvoir
mais non, t'es pas obligé.
Enrichir la chose, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie.
Mais c'est pareil en fait d'avoir choisi, je parle beaucoup du scénario, hein, mais d'avoir Shelob, donc Arachne en français, l'araignée, de leur faire prendre une forme humaine.
Quoi?
Ils lui ont fait prendre une forme humaine. Bah,
c'est
censé être elle, tu vois.
Non.
Et ça m'a profondément choqué aussi. C'est censé être une force démoniaque.
Mais moi, j'ai pensé que ce jeu était fidèle à l'univers. Mais je me suis fourré le doigt dans l'œil.
C'est censé être une entité. Une entité ancestrale qui a toujours une forme d'araignée. Et pour rien au monde, elle pourrait prendre une forme humaine. Mais voilà, alors ça c'est expliqué parce que notre personnage Talion peut voir le monde des ombres. Enfin, le monde du spectral en fait. Voilà, c'est expliqué comme ça. Après, c'est comme le fait qu'il ait son propre anneau, quoi. C'est encore un encart à l'univers, mais
il a son propre anneau dont on n'a jamais entendu parler dans les bouquins.
C'est censé être donc le spectre, c'est l'Erminbor, qui est un ancien elfe, seigneur elfe, qui avait forgé son propre anneau pour pouvoir lutter contre Sauron. Et évidemment, c'est ce que je disais dans le test, c'est qu'en fait, on se retrouve avec on est presque le némésis de Sauron, c'est-à-dire qu'on se retrouve à être à égal avec Sauron, alors que Sauron, c'est vraiment le personnage intouchable, c'est un peu le maître des ténèbres. On ne peut pas se mettre à son niveau, quoi. C'est un peu contradictoire.
Bah oui, mais bon, si tu transformes ça en JRTM où tu dois
mais non, mais sans aller, enfin, tu sans vois, aller de ça
si c'est pas épique, forcément ça devient compliqué.
Ils auraient pu faire une histoire à part, mais en respectant quand même ce qui faisait le charme du Seigneur des Anneaux.
Mais des fois t'es obligé, hein.
Se permettant justement des encarts comme ça, je pense qu'ils ouvrent aussi une brèche pour eux, pour d'éventuelles suites, pour d'éventuelles déclinaisons, où ils auront une liberté scénaristique qui sera pas canon,
exactement,
comme tu dis, mais qui leur permettra eux d'aller peut-être un petit peu plus loin et de réaliser leurs idées peut-être un peu plus folles.
Au gameplay,
alors vas-y, raconte un peu.
Pour revenir au gameplay, donc au système Nemesis, il est vraiment très bien travaillé. C'est-à-dire C'est-à-dire que chaque orque a sa propre personnalité. On se retrouve, je sais pas, avec Glorg le sanguin, Blorg le hurleur. Enfin, ils ont tous
des noms de bandits des années 60.
Voilà, exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont.
Chojo la tremblote.
Non, mais c'est presque. Tu rigoles, mais c'est presque. c'est presque ça. Hein.
René la canne. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc.
Par exemple, c'est un orc qui est blessé, bah, il va prendre le surnom de sa blessure. Enfin, c'est assez marrant à ce niveau-là. Mais c'est...
Jenny le Borg.
C'est vraiment bien vu. Ça.
C'est vraiment bien vu, et surtout qu'ils se battent selon leur personnalité. Par exemple, on a un orc, je crois que c'était le véreux ou un truc comme ça, et en fait, il a des vers qui vivent sous sa peau. Et c'est assez cradingue, mais il y a plein de choses comme ça qui sont assez succulentes en termes de voilà, d'univers. C'est très bien fait, très bien travaillé. Et en fait, là où justement ça ne respecte pas l'univers du site de Tolkien, mais en même temps c'est jouissif, c'est le fait d'avoir son anneau, de pouvoir recruter des orques, et du coup on se met à forger sa propre armée en fait. On fait sa contre-armée contre Sauron. Donc on peut recruter selon la personnalité des orques. Par exemple, si on a un orque qui chevauche un warg, je vais les appeler les wargs parce que le nom du jeu m'énerve. Mais voilà, on peut le recruter parce que justement il a cette habilité à pouvoir chevaucher un warg. On va pouvoir recruter, je ne sais pas, un orque qui se bat très bien à l'arc, qui est tireur d'élite. Enfin voilà, il y a tout ça, faut vraiment prendre en compte, réfléchir à ses recrutements, et ça apporte un charme vraiment particulier au jeu. Et malgré tout, malgré mon côté fan de Tolkien, un peu ultra hardcore, je vous l'accorde, ça fait quand même plaisir de voir ça. Et puis on a des petites scénettes sympathiques en vidéo où on comprend plus ou moins comment sont devenus les personnages, ce qu'ils sont devenus par la suite, comment le Seigneur Nazgûl a pris possession de Minas Ithil, comment Gollum. Enfin, c'est pas vraiment expliqué, mais on apprend pourquoi aussi Gollum. En fait, Gollum sert Shelob. C'est un peu contradictoire encore une fois, mais en fait il tombe un peu sous la coupe de Shelob, et voilà, c'est scénaristiquement c'est expliqué comme ça. Et il y a plein de petits aussi de
parce que là Gollum rencontre Shelob.
Il rencontre Shelob, ouais. Et oui, c'est particulier, mais bon. Sinon, il y a...
C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs qui potentiellement sont... sont validés dans le bouquin. Enfin, ils inventent en fait une préhistoire par rapport à...
C'est ça, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Tolkien, il a laissé beaucoup de manuscrits posthumes que son fils d'ailleurs a fait publier par la suite, et on apprend certaines choses.
Ah bon? Ouais. Mais non, mais ça je sais, mais je veux dire, on n'apprend pas que Gollum avait connu Shelob.
On apprend pas pour Gollum, mais ça enlève du flou qu'il aurait pu y avoir à ce qui se passait avant en fait.
Ah.
Ça précise certains éléments.
Voilà,
en fait.
ce qui se passe entre le deuxième âge et le troisième âge, puisque le Seigneur des Anneaux se passe au troisième âge, et le deuxième âge c'était vraiment la période où Sauron. C'était l'âge d'or de Sauron, et on apprend vraiment ce qui s'est passé un peu entre les deux, et cet épisode fait un peu la liaison. On apprend quand même des choses qui sont intéressantes quand même, voilà.
D'accord. Donc, et en termes de progression, c'est fluide, c'est agréable.
La seule problématique, c'est la difficulté un peu mal dosée. C'est-à-dire que des fois on se retrouve à se battre contre contre une vingtaine d'orques classiques, donc fantassins ou archers, contre et avec eux trois boss. Alors au bout d'un moment on se dit mais les mecs lâchez-moi un peu la grappe quoi, parce que ça devient injouable quoi. Déjà les boss sont très très difficiles. Alors il y a certains qui sont à son niveau, au niveau de votre personnage, donc ça pose pas de problème. Mais quand un héros peut nous vaincre, parce qu'en fait tout l'intérêt du jeu c'est que notre personnage peut revivre éternellement, puisqu'en fait il a le pouvoir du spectre et de l'anneau. Donc en fait quand il meurt il revient et il garde sa mémoire, etc. Et donc les orques peuvent vous tuer et justement prendre un grade, prendre du galon en vous ayant tué. Et le problème c'est que non seulement ils ont un nouveau surnom, peut-être une nouvelle arme, une nouvelle armure, mais en plus de ça ils ont aussi
c'est
un niveau
c'est ça.
Non, c'est un esprit.
J'ai pas vu.
C'est un esprit.
Non, y a pas d'aide.
C'est un esprit arbre machin qui peut invoquer d'autres bestioles.
Et du coup,
se fait torcher par un balrog au milieu du jeu.
Oui, c'est assez.
Bah vas-y, spoil le jeu, y a pas de problème.
Bah non, c'est une séquence que j'ai faite à la Gamescom, donc je peux t'en parler.
Et du coup, les orcs peuvent être parfois de gros niveaux au-dessus de vous, parfois 5, voire même 10 niveaux au-dessus de vous, et ça devient injouable quoi, parce que il va falloir abandonner la zone, tout simplement, parce qu'on ne peut pas recruter, ces orcs là, puisqu'ils vont nous vaincre à moins d'un miracle, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un peu la petite chose que j'aurais à redire, donc c'est pour ça que je lui ai mis 7 sur 10. Parce que y a des très bons éléments, et en même temps il y a des choses qui sont un peu des petits points noirs qui sont difficiles à retirer quoi. Voilà.
D'accord, très bien. Donc voilà, L'Ombre de la Guerre qui sort demain,
10 octobre.
Au moment où on enregistre, donc 10 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Et on va passer aux autres tests de la semaine. On va commencer avec deux petits jeux indés. On va commencer par toi, Thomas, avec Golf Story, un jeu qu'on n'attendait pas forcément.
Eh oui.
Qui est sorti sur Nintendo Switch.
Exactement. Enfin, on l'attendait pas moi aussi parce qu'un RPG de golf.
Je veux dire, le grand public ne l'attend pas forcément, un jeu comme ça.
Le grand public a tort. Ce serait dommage de passer à côté de cette petite pépite qui mélange véritablement. C'est un équilibre très bien foutu entre du golf, un vrai jeu de golf et en 2D, et une exploration à la RPG où on gagne des niveaux, où on récupère des items, où on satisfait tout un tas de PNJ en résolvant des quêtes, etc. etc. Et ça part très très loin. Là, voilà, sur la vidéo que vous voyez, on est à la plage, on envoie des ballons, on peut nourrir des crocodiles avec des ailes de poulet. Et en fait, à un moment donné dans le jeu, pour te situer un petit peu, pour te dire jusqu'où ça peut aller, tu te retrouves en fait à placer des émetteurs en fait qui prennent la forme de balles de golf dans des trous de taupe pour remonter les galeries à la source et déboucher finalement sur une conspiration de morts-vivants supervisée par des teenagers un peu émo.
En fait, toi, dès qu'il y a un pitch à la con, tu y vas quoi.
C'est ça. Non mais en plus, le jeu est vraiment super bien écrit. Il est très 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 drôle. Il y a un jeu.
Traduit en français ?
Non, il est qu'en anglais pour l'instant. Mais alors, ça peut être un petit peu bloquant par moment parce que autant la plupart du temps les objectifs sont très clairs, autant par moment c'est un peu cryptique et on sait pas forcément. Ah tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur la vidéo. Du coup, je vais essayer. Il y a des moments où on sait pas exactement ce qu'il faut faire pour réaliser
par hasard,
tel ou tel objectif. Et c'est un signe.
C'est un signe
que tu peux
utiliser
pour aller sur le lac. Il y a une véritable progression. Donc quand on prend des niveaux, on choisit est-ce qu'on améliore son spin, sa précision, la puissance de son tir. Voilà. On achète de nouveaux clubs qui ont chacun des capacités un petit peu particulières. T'as un club, le Lightning Wedge, qui te permet de faire partir des tondeuses fantômes qui hantent un cimetière. Voilà, c'est ce genre de truc. Il y a 8 mondes qui sont tout à fait différents. On les a vus. Il y a de la neige, il y a la plage. Et en plus, on joue un héros qui est d'une candeur et d'un calme absolu parce qu'en fait tout le monde profite de lui, c'est-à-dire que tous les gens qu'on va croiser sont cyniques, sont égoïstes, c'est tous des salopards à un moment donné en fait, mais le héros qui fait penser un peu à des personnages de River City Ransom avec son
ça vous pète
sa banane de Fulio japonais.
Fulio
pardon. Il va tout faire, il va accomplir tout ce qu'on lui demande sans jamais broncher, alors que tout le monde profite de lui et de sa naïveté. Et du coup, ça donne un jeu qui est drôle, bien écrit, qui est prenant sur ses phases de golf en 2D, qui est intéressant dans son exploration et qui...
Là, comment tu me l'as vendu là.
Là, tu vois des taupes en fait sur le green.
C'est long.
Oui, c'est une bonne quinzaine d'heures. J'ai pas encore vu vous, mais c'est entre 15 et 20 heures de jeu.
Putain, ça a l'air hyper varié. En plus, j'ai vu qu'il y a des phases en bagnole.
Ouais, à partir du moment où tu quittes la première zone, ça devient hyper varié en termes de situation, en termes de décor, en termes de quête qu'on va te donner.
C'est déjà sorti là, c'est ça?
Oui, oh oui, il est sorti sur Switch la semaine dernière.
Et c'est que sur Switch?
Absolument.
C'est uniquement sur Switch. Et c'est le premier jeu en fait d'un studio qui s'appelle Sidebar Games, dont pour l'instant on ne sait absolument rien en fait. Il n'y a pas de détails sur leur site, on ne sait pas qui sont ces gens. C'est le
qui
premier jeu en tout cas voilà, qu'ils signent sous ce nom là et franchement moi je vous le recommande. Si vous,
combien ça coûte?
Ça coûte 20€.
Ouais.
Non, 14,99€, je crois que je te dis une bêtise.
14,99€. C'est un gros carton du l'eShop dès le
début. Oui,
ça
a été la meilleure vente de la semaine en fait.
Bah, je vais gonfler la note.
Les tout petits reproches qu'on pourra lui faire, c'est qu'au niveau du green, à partir du moment où on putte, en fait, le niveau du green n'est absolument pas lisible. On a une petite indication sur le dénivelé, mais la plupart du temps, en fait, il faut tester et éventuellement foirer son putt pour se rendre compte en fait de la trajectoire qu'il fallait avoir. Donc il y a ça, et il est aussi relativement facile, c'est-à-dire que pour l'instant à aucun moment j'ai été bloqué, à aucun moment il y a eu quelque chose de particulièrement difficile à accomplir. Du coup tu rentres dedans comme dans du beurre ou autre chose quoi. C'est assez je vais pas dire linéaire, mais il n'y a pas de véritable moment où tu vas devoir améliorer ton skill pour résoudre une situation en particulier. En dehors de ça, vraiment, je le recommanderais à tout le monde. C'est un jeu qui est drôle, qui est coloré. Les deux phases de gameplay se marient à merveille et fonctionnent très bien ensemble. Donc à moins d'être véritablement hermétique au golf ou de pas aimer cette dimension d'exploration, il y a peu de raisons en fait de bouder Golf Story sur Switch.
Très bien, donc Gold Story disponible sur Nintendo Switch. Merci Thomas. Autre jeu indé sorti la semaine dernière et pour lequel je dois avouer que j'ai eu
un petit coup de foudre.
Un petit coup de foudre et c'était surtout une grosse surprise. Ça s'appelle Hat Story. Alors c'est un jeu qui était passé sur par Kickstarter il y a quelques années. Je crois que c'était en 2014, avant Yooka-Laylee. Alors pourquoi je parle de Yooka-Laylee ? Parce que c'est un jeu qui, dans le même style que Yooka-Laylee, revient à un style qui aujourd'hui se fait un petit peu rare, et c'est le cas de le dire, puisque c'était le style, on va dire, préféré de Rare dans les années 90. Ça avait pensé à du Banjo-Kazooie, à du Conker. C'est des jeux d'exploration et de plateforme en 3D dans lesquels vous allez devoir collecter plein de choses avec toujours un petit objectif à accomplir. Là, dans celui-ci, vous incarnez une petite fille avec un chapeau qui était tranquillement dans son vaisseau spatial avec son carburant qui est en fait une quarantaine de sabliers. Et tout d'un coup, il y a un mafieux qui vient toquer à sa porte qui dit « Oh, bah tiens, il faut payer la taxe et tout. » Elle fait « Non. » Elle referme la porte. Alors déjà, une fenêtre dans un vaisseau spatial, vous m'expliquerez pourquoi. Et donc le mafieux bousille ça, elle se trouve aspirée et son carburant avec, et du coup il va falloir qu'elle aille récupérer tout ça, notamment des mains du chef des mafieux, mais aussi d'une fille un peu bizarre qui s'appelle Moustache Girl. Bref, vous comprendrez que ça se prend pas du tout au sérieux. Un jeu qui est absolument ravissant. Alors techniquement non, techniquement c'est très pauvre, mais la DA et surtout la façon dont ça se joue, c'est assez impeccable. Il y a des idées de tous les côtés. Ce qui se passe, c'est qu'en fait vous allez récolter des pelotes de laine qui vont faire que vous allez vous tricoter des nouveaux chapeaux, des chapeaux qui ont plein de pouvoirs différents, qui vous ont de nouvelles perspectives dans chacun des niveaux. Vous voyez, vous pouvez jeter des fioles explosives, voir comme si vous voyez à travers les yeux d'un renard. Vous allez affronter des boss rigolos comme ce chiotte,
les méchants,
par exemple.
Bien débile, ouais.
C'est extrêmement débile et c'est extrêmement bien fait.
C'est bon comme un bon Rare de l'époque ?
Absolument, ouais. Ah oui, complètement. C'est totalement décalé comme un vieux Rare. C'est totalement bien construit dans chacun des niveaux. Alors, il y a des niveaux qui sont très ouverts, d'autres où ça va être beaucoup plus linéaire, mais avec un thème. Je pense notamment à une espèce d'enquête à la Agatha Christie dans un train dans lequel il va falloir avancer à tâtons parce que ça... On change aussi hein, dans les styles. Il n'y a pas que de l'action et de la plateforme. Il y a aussi des moments où il va falloir jouer un petit peu l'infiltration. Il y a des moments aussi un petit peu horreur. Bref, c'est ultra varié, c'est ultra agréable, c'est ultra mignon.
Ça fait penser un tout petit peu à Psychonauts, en fait, dans cette variété d'approche de gameplay et ce côté un petit peu cartoon, décalé et rigolo.
Alors, il y a plein d'easter eggs dans le jeu et Psychonauts en fait partie. Il y a plein de références. Vous verrez, en tout cas, je vous le conseille plus que vivement. Il est disponible uniquement sur PC pour l'instant.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de version Switch.
C'est un jeu qui mériterait largement d'avoir une version Switch qui ferait un carton dessus.
Il arrive super sur PS4.
Vous avez remarqué, c'est une phrase qui revient souvent, ça.
Oui. Ce serait bien
sur Switch. Tout le monde veut emmener ses jeux sur Switch maintenant.
Bah là, ce style-là, en plus, c'est... Enfin, je veux dire,
c'est déjà adapté, quoi. Enfin,
c'est totalement adapté à du Nintendo et donc à la Switch. Et ouais, vraiment, foncez.
Quand on a publié le test de Cuphead, ouais. Je sais plus lequel d'entre vous a dit ça, a dit combien de temps avant que quelqu'un fasse un commentaire. Putain, dommage que ça sorte pas sur Switch.
C'était Romain,
sûrement. Donc bref, n'hésitez pas.
Tout petit bémol au niveau des caméras, je crois, d'après ce que vous
avez dit. Comme tous les jeux, les jeux en 3D à chaque fois. Trouvez-moi un jeu de plateforme en 3D à caméra libre où la caméra est agréable et puis on en reparlera. C'est toujours pas le cas pour celui-ci, mais ça n'entache absolument pas l'expérience de jeu globale qui dure une dizaine d'heures à peu près et qui est vraiment super bien faite.
C'est cool comme idée de boss des chiottes.
Ouais, moi j'ai jamais affronté on se rappelle du caca dans Conker,
c'est ça, oui, c'est
mais
forcément
là c'est un chiotte, c'est encore autre chose. On passe maintenant rapidement aux autres tests. Alors on avait parlé de Forza 7 rapidement la semaine dernière.
Oui, c'est vrai que quand j'en ai parlé la semaine dernière, c'est vrai que j'avais que deux petites demi-journées dans les pattes et que bah, vous avez découvert le test.
Absolument.
Du coup plus tardivement. Et que voilà, c'est un très très bon jeu de bagnole. Voilà, le résumé c'est ça. Mais qui est pas aussi, qui prend pas autant de risques et de qui se permet pas autant d'originalité qu'on l'aurait aimé. Et qui souffre de quelques petits défauts assez énervants, notamment cette difficulté complètement aléatoire qui nous oblige à tout le temps aller la régler, la disparition des crédits bonus quand on enlève des aides, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui te pousse à jouer en mode simu. Des petits détails comme ça qui font que il a eu la note de 8 sur 10 et qu'on attend plus de Forza, même si vraiment c'est hallucinant à quel point il est beau. Mmh. C'est un jeu magnifique, absolument magnifique, et très, 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 très agréable à prendre en main. C'est le pilotage vraiment que je préfère. Je suis pas spécialement dingue de Project Cars, qui pourtant est plus complet, plus tout ce que tu veux. Mais au niveau du comment on appelle ça, le
des
sensations, on va dire, entre arcade et simulation, avec des réglages possibles et tout, c'est, je trouve, le un jeu que tu prends en main immédiatement et qui pourtant a une grosse courbe de progression, et surtout un grand plaisir qui te donne un grand plaisir une manette en main, quoi. Donc ça n'a pas changé, et c'est magnifique, etc, etc, etc.
Mais le test est disponible sur Gameblog,
le test est sur Gameblog, vous pouvez aller lire. Voilà, c'est un jeu qui divise, évidemment, parce que c'est il y a une grosse compète, hein, sur la fin de l'année. Project Cars 2, qui était sorti le premier, qui est le jeu hyper élitiste, hyper complet, machin. Forza, qui est l'exclu sur Xbox One, Project Cars est en multiplateforme, et l'exclu Gran Turismo qui arrive et qui va clore le bal assez chargé des jeux de bagnole.
Et espérons-le qu'ils veulent le clore bien, mais ça, on verra ça.
On
un
en
peu
parlera
plus tard.
La semaine prochaine dans le
podcast. Absolument. On peut continuer avec encore un jeu Switch, mais un jeu profondément décevant, c'est Picross S. On est deux fans de Picross dans la rédac, au moins.
Oh que oui. C'est
et là,
normal. Le principe est fabuleux en soi.
Ah ben c'est génial. Picross, c'est un style, c'est le genre de truc qui vous détend immédiatement, et en même temps ça vous fait un peu bouillir le cerveau. Principe simple, il y a des cases, enfin il y a des damiers. Il faut colorier les cases en fonction des chiffres qui sont indiqués sur le côté. Il faut deviner, il faut supposer, et ensuite colorier comme il faut pour découvrir des petites figures en pixel art. Alors c'est bien qu'on ait toujours plus de Picross. Malheureusement, là, sur ce coup-là, Jupiter Corp, ils ont joué la version très fainéante. C'est-à-dire que...
ils ont foutu le bordel.
Exactement, ça a foutu le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, on a du Picross et du Mega Picross. Alors, le Mega Picross, c'est ce système où on doit deviner sur deux lignes et deux colonnes différentes. Et le truc, c'est que c'est les mêmes, figures à découvrir dans les trucs.
Que le mode classique. Et ça, pour le coup, c'est hyper décevant, même si l'ordre est un petit peu modifié. Ouais. Histoire que tu saches pas d'avance sur quoi tu vas tomber, tu te rends compte très rapidement que tu retombes sur les mêmes figures. Et ça, pour le coup, quand on s'en est rendu compte, on a été tous les deux très 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 déçus.
Oui. Et ça ne pardonne pas, d'autant plus qu'en plus c'est même très facile. Je crois que je l'ai même pas dit dans mon test ça, mais y a le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est total, vous pouvez vous planter et vous n'aurez pas de pénalité particulière.
Oui, mais tu ne finiras pas ton puzzle.
Ouais, mais bon, enfin, il n'y a pas de.
T'as pas de pénalité au niveau du temps, ce qui était le cas avant, effectivement. Mais tu peux choisir, je crois, de le décocher.
Oui,
aussi,
mais de base,
options,
c'est pas le cas. Le mode de joueur, qui est pas forcément expliqué, il faut le trouver, et en plus. Bah, il est pas drôle, puisqu'on combat en
ça,
même temps.
Ça, c'est quand même très étonnant. Je veux dire, ils ont communiqué là-dessus au moment où ils ont annoncé le jeu, il y a deux semaines, en disant voilà, Picross arrive avec un mode de joueur.
Et tu trouves pas le mode de joueur.
Et non, mais Plumeau comme moi, en fait, on y a joué. À un moment, on s'est dit mais il est où le mode de joueur? En fait, il faut que tu détaches tes Joy-Con, il faut que tu dises à la console que tu y joues de cette manière-là. Et à partir du moment où tu l'as fait en rentrant dans les puzzles, tu peux les jouer à deux. À aucun moment ça n'est écrit que tu es en mode de joueur, à aucun moment ça te le propose, en fait. T'es obligé de le découvrir par toi-même.
Et c'est absolument pas drôle. Et. Enfin, pour terminer, ne pas avoir de possibilité de jouer en écran tactile, même s'il n'y a pas de stylet, hein, j'en conviens, c'est quand même un petit peu gonflé pour cette version qui donc est très feignante, très bof.
Oui, c'est voilà, c'est 150 puzzles de plus.
C'est ce smartphone, quoi.
Bah, ça aurait pu être gratos surtout.
C'est vrai que quand on s'habitue à jouer au tactile, c'est un peu relou de revenir au stick.
Tu veux qu'on te donne tout maintenant, c'est
ça. Bah non, mais écoute, on a eu un Picross Zelda qui doit en contenu être à peu près au même niveau et qui est même peut-être plus intéressant et qui était gratos. Là je suis.
Qui était plus limité en termes de grille, là on finit par du 15x15, même si t'aimerais toujours qu'il prolonge un petit peu plus le truc, quoi. Bon voilà, ça fait toujours 150 grilles de plus pour les amateurs de Picross, mais en dehors de ça, effectivement, c'est pas forcément un indispensable.
Ah, pas du tout, même. Ça n'est absolument pas indispensable. On reste du côté de chez Nintendo. Avec deux jeux sur 3DS, Julo et Thomas, dont vous allez nous parler. On va commencer par l'aventure Letton 4L et la conspiration des millionnaires.
4L étant la fille du professeur Letton. Et ça, c'est un jeu qui arrive sur 3DS, là, mais qui est sorti d'abord sur téléphone portable.
Absolument.
Et oui. Et avec,
avec quelques mois d'avance, d'ailleurs. Il
épisodique,
est sorti
voilà. Alors, c'est un jeu qui séduit encore par son univers et par différentes choses comme ses superbes dessins animés qui ponctuent l'aventure, etc. Et puis cette atmosphère voilà, qu'on a bien connue quand on a joué différents épisodes de la série.
Un peu naïve et pastel, mais bon enfant.
Donc tout ça est toujours assez cool, mais Yann, qui a fait le test, a été déçu par pas mal de petites choses. D'abord, apparemment, ça traîne pas mal en longueur. Voilà, au niveau dialogue, au niveau de la façon dont se déroulent les petites aventures, les petites enquêtes. Et puis, ça se résume assez souvent à pointer l'écran pour aller récupérer des objets. Et Catriel, qui finalement, à la fin, une fois que tu as tout récupéré, trouve un petit peu toute seule la solution, etc. Enfin bref, il y a un petit. Voilà, il était entre la joie de retrouver voilà, des petits puzzles, une aventure à l'atmosphère toujours très très intéressante, et en même temps un jeu d'enquête finalement pas si génial.
Très bien. Ensuite, Thomas, on va parler de Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser, qui lui est sorti sur 3DS
également.
C'est du remake de versions qui sont sorties sur DS.
Sur Game Boy Advance, en
Game
fait.
Game Boy Advance,
le premier. Oui, le Superstar Saga, c'est sur Game Boy Advance. Ne me regarde pas avec ce regard
parce que
suspicieux.
Je sais plus, moi, je suis perdu à chaque fois.
La version de lui.
Je mets ma main à couper pour ne pas dire autre chose.
Mais les sbires de Bowser.
Et les sbires de Bowser, en fait, c'est le rajout qui vient sublimer, on va dire, ce remake, qui prend déjà, en fait, l'épisode Game Boy Advance pour en faire un épisode sur deux écrans, c'est-à-dire que ça gagne du coup en lisibilité, ça permet d'afficher beaucoup plus de choses. Il y a eu un lifting et graphique et sonore très important. Si vous comparez ce qu'on voit là à l'écran avec la version originale sur GBA, il y a vraiment eu un gros travail.
Même.
Oui, mais ils auraient pu le porter tel quel, parce qu'en soi, c'était un bon RPG d'aventure quand même déjà à la base. C'est le premier épisode, en fait, de Mario et Luigi sur portable, donc qui a lancé la saga. Je crois qu'on en est au cinquième aujourd'hui avec Paper Jam qui est sorti sur 3DS. Et donc là, on reprend, en fait, Alpha Dream reprend le premier épisode pour le sublimer graphiquement et pour rajouter effectivement ce mode inédit Les Sbires de Bowser qui donne son sous-titre au jeu, qui est en fait une histoire parallèle dans laquelle on va incarner un Goomba qui se retrouve finalement avec ce petit drapeau au sommet du crâne comme on le voit sur la vidéo et qui va en fait conduire des légions de mobs pour affronter d'autres équipes ennemies, en fait, dans un jeu qui tend plutôt vers la stratégie. Et qui est en fait quelque chose de parallèle à l'histoire qui se déroule dans Superstar Saga.
D'accord.
Donc c'est un très bon remake, le jeu fonctionne bien, c'est hyper agréable au niveau visuel, sonore, de redécouvrir un petit peu cette ambiance. Et je pense que pour ceux qui l'auraient éventuellement loupé sur GBA à sa sortie, parce que ça commence mine de rien à dater un petit peu, c'est une très bonne manière de découvrir la série, en fait, parce que même si elle tend à se reposer un petit peu sur ses lauriers et devenir un petit peu poussive dans ses derniers épisodes, c'est une époque où Mario et Luigi, c'était quand même vachement sympa au niveau du système de combat qui vous demande d'être actif en permanence, qui demande toujours de timer ses attaques, d'obtenir des boosts en fonction de ce qu'on allait lancer, avec la complémentarité entre les deux personnages. Bref, pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu à l'époque de sa sortie ou qui souhaiteraient le redécouvrir, c'est une très bonne manière d'avoir un bon petit RPG d'exploration bien écrit, en plus drôle et coloré, sur 3DS.
Très bien, et bien on va finir cette séquence test avec Batman The Enemy Within épisode 2, dont on a parlé au début de podcast pour cette polémique avec l'image de l'ambassadeur russe tué en 2016. Romain a pu y jouer, moi aussi. On est assez d'accord sur le fait que la formule Telltale commence depuis longtemps d'ailleurs, à être un peu...
à lasser.
Elle commence à lasser. Après, de ce deuxième épisode, on peut quand même dire que le scénar prend toujours une bonne tournure, qu'il y a une réécriture, en fait, de la mythologie Batman qui est vraiment super intéressante, une interprétation de chacun des personnages qui est très intéressante, quelque chose d'assez nouveau finalement. Le point sur lequel il faut assez insister, c'est évidemment le Joker, qui n'est pas exactement le Joker tout puissant tel qu'on le connaît dans la plupart des différents comics de Batman, qui est plutôt à la solde d'Harley Quinn, qui d'ailleurs est un personnage très très intéressant dans ce Batman Enemy Within, et qui d'ailleurs est peut-être celui qui a le plus de soins en termes visuels, notamment au niveau des expressions faciales. Ça va dans une bonne direction une fois de plus, mais il faudrait
c'est
que Telltale
ou 3
oui le... largement et il faudrait juste que Telltale à un moment se comment dire
sorte les doigts du
exactement
et renouvelle la formule
exactement et qu'ils s'applique un petit peu sur certaines choses, notamment notamment la traduction, où, parce qu'il y a des vrais problèmes de localisation, encore une fois.
Ah, bah ça, nous, on n'a rien foutu hein, de nous. Hein.
Ouais. Techniquement, ouais. Ça a quand même pris un coup. Hein.
Ouais, aussi, oui. Et
parce
puis.
Honnêtement, depuis. J'ai souvenir, le dernier jeu tel que j'ai joué, c'était Jurassic Park. Ça n'a pas non plus évolué. De...
Non, ça n'évolue pas beaucoup. Et... Non,
mais surtout les mécaniques, en fait, je pense que plus que le style graphique, c'est aussi. Les mécaniques de jeu dont on a largement soupé depuis. Donc,
au bout d'un moment, t'as besoin d'être surpris, quoi.
Oui. Ouais.
Comme en amour.
C'est ouais, ça,
t'as
exactement.
Beau être amoureux de cette.
Oui, il faut redonner l'envie.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est pas avec des sous-titres français qui sont à la rue ou qui disparaissent pour laisser la place à l'anglais que ça va se passer. Bref, c'est encore une fois très compliqué avec Telltale. On verra si la suite nous emmène dans la bonne direction. Mais en tout cas, celui-là, bof, bof, quoi. Voilà. Messieurs.
Eh bien, c'était très intéressant.
C'est vrai ?
Ouais, merci.
Bah, ça va être le moment de se quitter, alors. C'est ainsi que se termine ce podcast.
Bah, c'est un peu triste, mais à chaque fois, ce qui nous remet un peu de baume au cœur, c'est de se dire que ça recommence la semaine suivante.
Ah bon ? T'es sûr ?
Bah, normalement, oui.
Ah bon ?
Si tout va bien.
Si jusqu'ici, tout va bien, ouais.
Moi, je suis pas sûr. Hein.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
Moi, je pense que la semaine prochaine...
On fait grève ?
On fait la sieste ? On va manifester ?
Non, la grève, c'est demain, les mecs.
Bah on fait notre grève à nous la semaine prochaine.
Ok, on fera une petite grève alors. On se retrouve du coup pas du tout la semaine prochaine.
Allez, adieu.
Merci Thomas, merci Julo, merci Camille, merci Poufi à la sono, merci Trask de ne pas être intervenu. On se retrouve donc comme je vous le disais la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. Et puis bah portez-vous bien. Ciao.
Salut, ciao.